Ouais, salut tout le monde. Ici c'est votre gars le Denz pour Denzel McIntosh bien entendu. Parce que les intros tonitruantes, sans les bonnes présentations ça ne fonctionne pas. Mais bienvenue pour ce nouvel épisode de Dynasty Sound. Et aujourd'hui c'est un épisode tout à fait particulier puisqu'il s'agit de producteurs que j'apprécie tout particulièrement. C'est pour ça que je suis un peu le lead aujourd'hui pour cet épisode-là. Et je suis toujours accompagné de mon frérot Marc. Ça dit quoi mon ref?
Yo 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 yo, c'est comment mon gars? Là, on va parler d'un épisode. Ça va être costaud là. Là, je sens que, comme pour Timbo, tu vas être au max, tu vas être au zaguet là. Tu vas nous servir des
Ah,
bonnes petites
oui.
choses. Surtout que, franchement, on va se dire, hein, t'es la matrice même de Pharrell, mon gars.
Dans...
Je sais, on sent que t'as
Dans
vécu dans
quel
cette
sens?
matrice.
Ah oui,
Musicalement,
bien
gros.
sûr. Ah ouais, non mais
Musicalement,
oui.
musicalement, mon gars, parce que là, clairement, faut qu'on parle de toi dans celui-là aussi, parce que musicalement, ça sent qu'il t'a inspiré d'une manière folle dans ce que tu fais, tu vois. Pour le meilleur, d'ailleurs.
Ok, bah écoute.
Ça s'entend ou non?
Je le reçois carrément comme un compliment, mais oui, totalement, effectivement.
Même s'il y a le Timbo, bien sûr.
Ouais, bien sûr, Timbo, mais tu connais. J'aurais quelques trucs à mentionner en ce qui concerne mon parcours personnel et ma relation toute particulière avec les Neptunes. Mais oui, puisque c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui. On va parler des
Oui.
Neptunes, les gars. On va parler des Neptunes. Ouais, on va parler de Star Trek. Pour ceux qui arrivent à faire le signe Star Trek, levez-les. Pour les gens qui n'ont pas la polio.
Je l'ai fait,
Pour
je
les gens
l'ai
qui sont en
fait.
accord pour les gens qui sont en accord avec leurs mains, qui ont une motricité intacte. Faites le
Gros,
signe,
ça
les
m'a pris
frères.
du temps. Hein. Sache que ça m'a pris du temps à le faire, cette chose. Et encore, je suis pas sûr. Eh gros, je te jure, avant, je savais pas le faire, c'est une
T'as vu?
dinguerie.
Avec le pouce bien à l'intérieur.
Voilà.
L'astuce
Non,
pour...
franchement, je fais de ouf. Ah, je suis trop content là, mon gars. J'ai atteint la
Ouais.
coolitude. Au moins 1% de la
Ouais.
coolitude de Pharrell, je l'ai atteint là, aujourd'hui.
Ouais, non mais l'astuce déjà, bon, pour mettre bien les auditeurs, l'astuce c'est de pousser avec le majeur. Quand tu pousses avec le majeur, t'as pas à penser aux autres doigts et donc le signe sort plus facilement.
Je
Mais
confirme.
bon. Et bon, on n'est pas là pour faire de la kiné ou de la rééducation, là on est là pour parler musique, mon ref. On est là pour parler. On est là pour parler des Neptunes, on est là pour parler de Chad Hugo et de Pharrell Williams, deux giga producteurs qui se sont associés durant leur prime jeunesse, disons pendant leur adolescence, pour former ce duo iconique dont on va parler pendant cet épisode. Et on va commencer par une petite intro du frère Omar, comme d'habitude. Je te laisse le mic pour nous présenter ces deux producteurs iconiques.
Merci, le dance. Alors, si on devait définir ce qui est cool, ce Neptune serait certainement le logo de la définition. Déjà à travers le vampire Pharrell Williams qui est BG, stylé, talentueux et tout ce que tu veux. Et parce que son duo avec Chad représente pour la culture populaire. Toutes les personnes qu'ils ont influencées, qu'ils ont permis d'être fidèles à eux-mêmes à travers leur musique décalée à l'époque, qui est devenue une normalité. Les travaux qui passent de Kelly à Jay-Z, Beyoncé, Prince, Britney Spears, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Frank Ocean, bref, les mecs tirent partout quoi. Tout le monde. The Neptunes ont ensemble, ou séparément d'ailleurs, déposé une marque indélébile dans la musique populaire. Du coup, je te laisse me dire ce que tu penses de cette description des Boogs.
Moi, je suis totalement corda avec cette description, en ce qui concerne notamment la variété de leur travail. Et ouais, tous les artistes avec qui ils ont travaillé, qu'ils ont plus ou moins iconisé, il y a des choses vraiment à dire. Il y a des. Disons que ce qui est intéressant à constater avec les Neptunes, et on aura l'occasion d'en parler un petit peu, c'est qu'ils sont arrivés à chaque fois, pas forcément à proposer des projets qui ont changé la carrière de gros rappeurs ou de gros artistes, mais ils ont contribué à leur manière, tu vois, à apporter des espèces de resets dans leur parcours. Mais on aura l'occasion d'en parler, tu vois, ils ont fait le coup avec Busta, ils ont fait le coup avec Jay-Z, ils ont fait le coup avec Snoop, avec un morceau auquel tout le monde pense, je pense ici. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Mais il convient peut-être de revenir au début, de revenir aux origines du groupe. Et on en a un petit peu parlé d'ailleurs quand on a parlé de
De
Timbo,
Timbo,
parce
totalement, ouais.
que Pharrell et Chad sont tous les deux dans la même école, n'est-ce pas?
Exactement, ouais. D'ailleurs, école de fou, encore malade, au cas où vous n'aurez pas suivi pour Timbo, où il y avait du coup le duo de The Neptunes. Il y avait les Clips dans la même school, il y avait Missy Elliott dans la même school, il y avait Timbaland aussi dans la même school, le cousin, pas cousin de Pharrell Williams, du coup. Parce que
Ouais.
beaucoup de personnes font la confusion, est-ce qu'ils sont vraiment cousins, ils sont pas cousins, donc techniquement, ils sont pas cousins. Mais vu qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils ont eu leur groupe ensemble et tout, à l'époque du lycée, et que Timbaland, justement, définissait Pharrell Williams comme un génie complètement fou, tu vois. De toute façon, quand tu parles à l'un ou à l'autre, l'un et l'autre vont toujours se balancer la balle de... ouais, lui, c'est un génie, il a fait ça. Ouais, mais lui, c'est un génie, il a fait ça. Lui. Tu vois, c'est vraiment que du love. Mmh. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est fou, encore une fois, de se rendre compte à quel point tous les génies qui, en réalité, ont apporté une force nouvelle à la Virginie, ils ont été tous au même endroit, tu vois. Et on
Ouais.
a un affect pour eux tous, en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, crazy ass shit, once again.
Ouais, laisse tomber des Pusha, des Magoo, des Timbo, des Missy, c'est incroyable, c'est quand même incroyable. Chad et Pharrell étaient tous les deux dans le programme de musique de leur école, et ça c'est très important. Le nombre de musiciens qui sortent de ce genre de programme, quand ils sortent pas bien sûr des écoles gospel et tout, et qui ont une formation en fait musicale et qui sont passés par tous ces trucs-là, c'est vraiment un truc moi personnellement que je regrette en France. Donc voilà, c'est mon petit, c'est mon petit
Mais
coup de
pourquoi
gueule.
du coup? Dis-moi, dis-nous tout pourquoi.
Parce que je trouve qu'aux États-Unis, en ce qui concerne notamment les sports et les arts, tu vois, tu as cette possibilité de professionnalisation dès la scolarité. C'est-à-dire que tu vois, tu as des clubs de jazz, des machins, des cours de jazz, des choses qui, dès le lycée, te permettent en fait de te développer dans ton domaine. Moi, je sais par exemple qu'en primaire, il y avait des classes musicales, mais vas-y, c'était un truc vraiment spécial. Enfin, c'était uniquement dans la primaire dans laquelle j'étais. J'y ai pas participé. Je voyais ça comme un truc magique de ouf. J'aurais trop aimé, mais bon, bref. Mais toujours est-il que dans les lycées, dans les collèges, t'as pas ce truc-là. T'as des possibilités, t'as des petits clubs et tout, mais il n'y a pas de volonté d'inscrire cela dans le cursus scolaire, tu vois, et d'en faire vraiment une part entière de l'éducation, tu vois. Pour ce qui est du sport, par exemple, tu vois, au lycée, t'as vraiment l'école qui est intégrée, enfin, l'équipe de sport qui est intégrée au collège. Là, l'équipe du NSS, tu connais, hein,
Ah, je
l'équipe
connais
du
très bien, j'ai
NSS,
été
ouais.
dans deux équipes du genre, donc j'étais
Ouais.
dans l'équipe de handball au lycée et dans l'équipe de basket aussi, tu vois. Et en réalité, comme tu l'as dit, moi c'était qu'au collège où j'avais eu des cours de musique. Et en plus, moi c'était vraiment particulier, tu vois. J'étais à Cergy. Franchement, Cergy, on était dans une bulle. C'était une dinguerie. Comme je t'ai dit là-bas, tous les Ricains déjà qu'on avait de base, dont je parlais chez Just Blaze, et l'école en elle-même. En fait, je pense que Cergy, c'était une des seules villes où j'ai ressenti une certaine forme de présentation de la culture forte là-bas, tu vois. Et là-bas, il y avait des cours de musique, vraiment, on avait des cours d'orchestre où on apprenait vraiment à faire des chansons avec un orchestre, tu pouvais apprendre à jouer du piano. Tu vois, il n'y avait pas que de la flûte ou vite fait du chant choral, tu vois. Moi, j'étais au Congas, d'ailleurs, je regrette, j'aurais dû faire du piano. Et on était vraiment dans ce truc-là où tu allais en cours et en même temps, les meilleurs de la chorale et ceux qui voulaient le faire, ils pouvaient faire des représentations avec l'école et tout, tu vois. Mais c'était vraiment quelque chose de particulier à cette école. Et comme tu l'as dit, c'est pas une culture. En fait, je pense que c'est ça, en fait, un peu avec la France. Bon, on va revenir, mais on dévie un peu. Mais c'est que cette culture-là, de la promotion de la culture, en réalité, même de la culture, c'est une chose qui ne se fait pas tellement en France. C'est pour ça que je trouve qu'on s'approprie très bien des choses, mais qu'on a du mal à la créer parce que dès le plus jeune âge, on n'a pas cette notion de création des choses, tu vois. On les reprend. On les adapte à notre manière, qu'on le fait très très bien, tu vois. Quelquefois, on arrive du coup à travers cette appropriation de le faire mieux. Je pense à des beatmakers qui arrivent aux États-Unis et qui font des prods qui valent largement des Tarek Aziz aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Il arrive aux États-Unis, il fait des God Deed, Richie Beats qui est capable de faire des choses de ouf. Enfin bref, plein de producteurs français qui sont super talentueux. Mais on a du mal à créer des choses en France parce que c'est une culture on n'a pas l'habitude d'être dans la promotion de cette culture-là, de créer des choses. On attend toujours que les choses arrivent, les viennent. Qu'on le fasse et après on se dit ça, c'est stylé, on le fait, tu vois.
Ouais.
Pour rejoindre un peu ton idée là-dessus, donc ouais, agree totally, je comprends totalement.
Ouais, totalement. Pour un peu conclure cette parenthèse, un des dispositifs qui a un peu le monopole, tu vois, sur l'éducation de la musique en France, c'est les conservatoires. Or, les conservatoires sont, comme le nom l'indique, très conservateurs. Et c'est le solfège, c'est le classique qui domine, tu vois. Et il n'y a pas d'ouverture vraiment vers les autres genres. Et c'est ça qui a dégoûté de la musique beaucoup de potentiels artistes, tu vois, avec cet esprit de rigueur et ce manque de fun, tout simplement, tu vois, dans l'apprentissage de la musique, qui est inhérent à la culture classique, pas à la musique classique, mais à la culture du classique en France, tu vois. C'est ça, tu vois, qui est un petit peu piège, notamment pour le développement de la créativité artistique. La plupart des gens qui savent aujourd'hui manier un peu un instrument, tu vois, ils sont passés par un conservatoire, mais ils se sont vite tirés parce qu'ils ont trouvé ça anxiogène à voir. Et ça, c'est extrêmement regrettable. Enfin, tout ça pour dire que Chad Hugo et Pharrell appartenaient tous les deux à un programme comme celui-là, un peu comme d'ailleurs pour ouvrir encore une autre parenthèse, des gars des Red Hot Chili Peppers, que ce soit Flea et Anthony Kiedis, je pense qu'ils faisaient un truc comme ça, les deux fondateurs des Red Hot. Tout ça pour dire, bref, que c'est C'est un vivier, en fait, ce truc-là. Et ils sortent de ce vivier-là. Pharrell, je crois, à la batterie et Chad au cuivre. Et il y a cette formation qui se crée avec Missy Elliott, Timbo, Magoo notamment, Surrounded by Idiots, et qui est très fortement influencée par A Tribe Called Quest. Et je pense qu'on mentionne pas assez l'influence de A Tribe Called Quest dans le mindset des Neptunes, premièrement, et deuxièmement aussi dans leur composition. Ils sont pas dans ce délire de sampling et tout à la Q-Tip, mais le son, l'état d'esprit, tu vois, un Bonita Applebaum, ça a influencé d'une certaine manière une bonne partie de la discographie des Neptunes. Et donc, je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. L'influence de Q-Tip, notamment, qui est une espèce d'icône pour Pharrell, il est archi admiratif de Q-Tip et de A Tribe Called Quest. Eh bien, ça reste quand même important à mentionner dans un podcast dans lequel on parle des Neptunes. Est-ce que d'ailleurs, tu vois, toi, ce pont-là entre les deux, ouais?
Bah, de toute façon, il en a parlé de lui-même. Donc, tout de suite, il disait que, le deuxième album de A Tribe Called Quest, l'album le plus connu de A Tribe Called Quest, c'est un blasphème.
Low End Theory, peut-être?
Exactement, Low End Theory. Ça me sortit de la tête, je ne sais pas pourquoi, alors que l'album est incroyable. Un de mes albums favoris de Time. Mais tout ça pour dire que Low End Theory, pour lui, a été un album qui réellement fait partie des choses qui ont changé sa vie, tu vois, en termes de production, la manière qu'il a de réfléchir sur la musique et tout. Donc en vrai, je pense qu'on peut tout simplement pas dire, tu vois, en réalité. Je pense aussi que Q-Tip, d'une certaine manière, ressemble à Pharrell Williams, dans le sens où, au moment où le rap allait dans un sens, Q-Tip avait une autre manière de réfléchir, tu vois. Et par exemple, tu voyais à New York face à qui on mettait Q-Tip. Q-Tip, on le mettait à côté de Nas et de Jay-Z, qui étaient vraiment des mecs de la rue. Q-Tip aussi était un mec de la rue, tu vois. Mais il avait cette manière très, entre guillemets, nerdy de voir les choses, tu vois, de réfléchir sa musique. C'était vraiment un mec qui travaillait le son, qui était un passionné du son, qui n'avait pas peur d'écouter ce qui se passait à l'Ouest au moment où ils étaient vraiment dans une embrouille avec l'Ouest à New York, tu vois, parce que c'était quelqu'un qui aimait cette musique pour de vrai. Et de toute façon, il s'est inspiré de N.W.A. pour The Low End Theory. Et de l'autre côté, Dr. Dre s'est inspiré de The Low End Theory pour The Chronic, tu vois. C'était un beau partage de culture à ce moment-là. Et tout justement cet aspect-là, découverte, cet aspect ouverture d'esprit musical, cet aspect très nerdy, très touche à tout, rappeur chanteur, c'est quelque chose qu'il a totalement pris de là-bas, Pharrell Williams, tu vois. Et c'est, du coup, ça semble logique, en fait, que du coup, dans le son des Neptunes, Chad Hugo et Pharrell, qui sont vraiment deux personnes liées comme ça, tu vois, qui se retrouvent exactement dedans, tu vois. Et mini anecdote, c'était grave drôle, parce que du coup, c'était l'anniversaire de The Low End Theory, c'était, je crois, ça remonte à il y a 2 ans. Et tu vois, Pharrell, il retweetait absolument tous les messages qui disaient joyeux anniversaire à cet album. Vraiment tous. Tu sais, genre, par exemple, là, sur le compte Iconic, du coup, il a retweeté joyeux anniversaire The Low End Theory qu'on avait posté là-bas, tu vois. Pour te dire à quel point il était à fond du fond. Le mec, il est toujours matrixé par cet album jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Du coup, c'est grave beau, je trouve.
Ouais.
Et enfin, bref, tout ça pour dire que je te rejoins de ouf.
Ouais, totalement. Mais en ce qui concerne toute l'énergie Native Tongues, tu vois, le côté un peu coloré, shiny, ce hip-hop brillant, c'est ça qu'on retrouve chez les Neptunes et qu'on aura l'occasion de mentionner un petit peu plus tard. Mais oui, donc il y a cette formation avec Surrounded by Idiots, puis le détachement parce qu'ils commencent vraiment à faire leur truc de leur côté. Ils ont leur état d'esprit, leur vision des choses qui ne correspond pas forcément toujours avec Timbo. Et c'est pas grave, tu vois, il y a détachement qui se fait, mais qui se fait naturellement, sans conflit, sans hard feelings, tu vois. Et ouais, ils continuent de faire leur chemin, leur petit bonhomme de chemin. Et il y a un autre producteur, très grand producteur des 80s et des 90s, qui vient lui aussi de Virginie, qui est à la recherche de nouveaux talents. Et ce producteur, c'est tout simplement Teddy Riley. Teddy Riley, dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui intervient et vient chercher les Neptunes, vient faire une espèce de concours de talents dans lequel il repère les Neptunes. Et c'est comme ça qu'il arrive à les intégrer à une formation, à des possibilités en fait de rencontres avec notamment des artistes comme SWV, avec qui ils font deux. En fait, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quasiment des meilleurs morceaux all time de leur discographie, hein, les deux morceaux avec SWV.
Mais tellement, de toute façon, on avait parlé de Right Here la dernière fois là.
Ah, mais oui, mais oui.
Ah,
impossible de parler de ce morceau sans avoir les sentiments.
C'est toujours la même chose, à la fin quand tu poses cette chanson, c'est trop, c'est n'importe quoi, le sample et tout, nan.
Ouais.
Ah non, c'est n'importe quoi, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus, tu m'avais fait remarquer la dernière fois, du coup, qu'il y avait la voix de Pharrell Williams. Et, ouais. Mais en fait, c'est vraiment le genre de truc où, une fois que tu captes que c'est là, tu dis « Damn !» Genre, je l'ai pas entendu.
Bah ouais.
Genre, je l'ai pas entendu. Putain, j'ai crié au micro, désolé les gars.
mais ouais, mais c'est l'énergie.
Mais je te jure, j'ai dit « Ouais, mais c'est quoi ce délire, tu vois ?» Donc ouais, déjà, le mec, il arrive tout de suite... Right Here avec Teddy Riley. Enfin, en vrai, même avant, il a fait un des plus gros tubes de rap à l'époque. C'était même le plus gros tube de rap à l'époque, peut-être même. Genre Wreck and Effect, Rum Shaker. Les mecs, ils étaient crédités dessus. Ils ont commencé à produire dessus et tout. Nanana. Donc en vrai, les mecs, ils sont arrivés. Teddy Riley, tout de suite, il les a mis au charbon sur des gros trucs, tu vois. Direct.
Ouais.
Genre le Rum Shaker, genre, c'est voilà le torque à l'ancienne, tu vois. Bah, tu vois, ils étaient déjà dans les bons coups. Je sais même pas quel âge ils avaient à l'époque, mais. Tout de suite, on les met sur des trucs violents comme ça, là, les ta-ta-ta-ta-ta. Donc, SWV déjà violent entre celui-là et Use Your Heart aussi. C'est folie. Use Your Heart, premier son où ils sont vraiment crédités Neptune. Genre, c'est les Neptunes qui ont tout fait d'ailleurs. Parce qu'avant ça, c'était Teddy Riley qui menait vraiment la danse en fonction de ce qu'il devait faire, histoire de les mettre dans le truc quand ils ont fait Rum Shaker, quand ils ont fait Right Here. Et même les sons avec les Black Street qu'ils ont produit pour eux, tu vois.
Et c'est une première entrée, mais leur premier morceau vraiment hip-hop peura qui leur donne un petit peu de visibilité, c'est ce morceau. Morceau incroyable, je suis obligé de glousser de rire comme si j'étais Spice Adams en en parlant. Tellement il mangeait parce que l'intro de May, c'est incroyable. C'est Looking at Me.
Vous avez vraiment du coup là, t'as ce son là pur Neptunes un peu. Enfin,
exactement, début, exactement le son bien synthétique, le son bien électronique des Neptunes. On en retrouve vraiment dans ce son toutes les caractéristiques du son des Neptunes, vraiment dans ce que je pourrais qualifier de caricatural. Sans employer le bon mot, mais tu vois là où je veux en venir, tu vois. Vraiment, c'est le son des Neptunes ça, avec cette caisse claire qui fait, tu vois, ce truc un peu métallique. Non, ça c'est vraiment le son des Neptunes pour de vrai, tu vois. Les sons de synthé derrière. Allez écouter Looking At Me. Looking At Me, c'est vraiment un morceau des fondamentaux. Mais Mace, en plus, il arrive là-dessus. Now what the hell is you looking for? Can a young man get money anymore? C'est trop ce qu'il fait là-dessus.
Mais au final, j'ai l'impression que franchement, pour cet album de Mace, ils ont tellement rassemblé des gens de fou pour la production. Genre,
ah oui, c'est un blockbuster,
Harlem World. Mais vraiment, tu sais, très souvent, dès qu'on parle des producteurs dont on a parlé jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui ont bossé pour l'album de Mace, sur cet album de Mace là. Donc vraiment, le but, vraiment, c'était que ce soit la... De toute façon, c'était la star avant Biggie chez Diddy, tu vois. Et il fallait que ce soit la star. Et du coup, c'était tous les artistes un peu émergents de l'époque là, bam, 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 on les met dedans. Et du coup, il fallait quand même avoir une oreille pour y croire. Et Pharrell Williams, lui, il était quand même bien entouré. T'as Teddy Riley qui est là avec toi. Teddy Riley, il a marqué l'histoire. Le mec, il te pousse comme ça. Allez, vas-y, fais ci, fais ça. T'as quand même un bon début pour entamer, tu vois. Mais quand même, surtout que là, c'est la première fois que The Neptunes, donc c'est croire à un nouveau son. Ça veut dire que ce son-là n'existait pas avant, tu vois. Genre, vu qu'ils étaient vraiment... avec SWV, on était dans quelque chose de très R&B. Il y a des choses qui reviendront plus tard, comme la force qu'ils ont sur les bridges et tout, tu vois. Mais oui, c'était la première fois vraiment on se retrouvait avec un son vraiment neptunien dessus, tu vois. Donc, fallait y croire. Et c'est là que tu dis que le camp de Diddy et Mace, ils n'avaient pas vraiment peur de tenter des choses au début de leur carrière, tu vois. Et en réalité, ça, c'est notable.
Ouais, totalement, totalement. Et peu de temps après, en plus, ils arrivent avec un autre gros morceau qui, vraiment, celui-là aussi, marque le son des Neptunes dans tout ce qui est là de plus brutal. Ça rejoint un peu ce qu'ils font avec Ner, notamment dans In Search Of, avec des morceaux comme Lap Dance, tu vois. C'est tout simplement Super Thug. Je sais pas ce que tu penses de ce morceau-là, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un morceau du Zbeul au dernier
degré,
tu vois.
Mais bien
c'est pratiquement, c'est pratiquement du Swiss Beats, tu vois.
Mais de ouf, d'un sens, tu vois, c'était tout de suite en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même genre, ouais. Nori, sa voix, c'est ça, c'est une voix de Zbeul. C'est pas quelque chose.
C'est ça.
Il crie dans tes oreilles, Nori. Il crie dans tes oreilles, tu vois, c'est littéralement ça. Et c'est vraiment drôle en fin de compte que c'est avec Nori, from all people, qui va avoir son premier tube. Et en plus, il est croyable. Je sais pas, t'as l'anecdote par rapport à comment ça s'est passé, la rencontre entre Nori et Pharrell?
Non, du tout.
Bah en fait, du coup, tu vois, c'était Pharrell Williams et Chad Hugo, The Neptunes, Youngins trying to make it, trying to survive in this world, tu vois. Et du coup, ils arrivent sur un plan et ils arrivent à trouver un moyen d'entrer en contact avec Nori. Du coup, ils veulent parler à Nori, mais ça passe d'abord par un de ses bougs. Et il est là, ouais, il dit, ouais, je veux parler à Nori et tout, I want to talk to Nori and shit. Du coup, le mec, il va voir Nori et tout. Parce que personne en vrai vraiment voulait donner l'heure à Pharrell Williams à l'époque. Parce que la dégaine qu'ils avaient, mais particulièrement Pharrell Williams, parce qu'en réalité, Pharrell Williams, c'est le mec qui a toujours été devant. Et Chad Hugo, ça a toujours été le mec qui a été derrière, tu vois. Et du coup, Pharrell Williams, avec sa dégaine, alors que, en fait, totalement à l'opposé des autres, donc tout le monde est en baggy à cette époque. Pharrell Williams, il est près du corps, il est habillé comme un skater, casquette visière et tout. Enfin, des gens ne comprennent pas, tu vois. C'est vraiment le nerd par excellence. Du coup, personne ne veut lui donner l'heure. Et là, ça aurait pu être pareil pour Nori, mais Nori, il dit, vas-y, c'est quoi, laisse-moi le parler, tu vois, vu que le mec, il a l'air d'avoir faim et tout, whatever. Il va voir Nori et tout, il lui dit, ouais, Nori et tout, nanana. Écoute, moi, je peux te donner un morceau numéro 1. Genre, si tu me fais confiance et tout pour la prod, tout ça, je peux te donner un morceau numéro 1. Nori, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois, genre, il dit, mais je lui dis, je suis sérieux, je te jure, tu vois, il est là, il n'en avait rien à foutre. Et Nori, il a dit, vas-y, tu sais quoi, je vais te laisser ta chance et on va voir ce que ça donne, tu vois. Et du coup, à partir de là, Super Thug est arrivé, à partir de là, brah, numéro 1. C'est ouf, j'ai du mal à imaginer les Neptunes, particulièrement Pharrell, comme des personnes qui sont là à taper des portes pour... y aller. Mais d'un autre côté, je trouve que ça le représente bien parce que, mine de rien, même si Chad Hugo et Pharrell, ils ont un côté plus gentil garçon par rapport aux mecs de la street avec qui ils étaient, tu vois. Mais en fait, dans ce cadre-là, ils ont un côté très rebelle. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont des influences totalement autres des autres, tu vois. Donc, ils s'inspirent beaucoup du R&B et tout. On a du Stevie Wonder, on a de la pote avec Michael Jackson, Prince et tout. On a des influences très rock aussi, mais c'est des personnes qui sont dans le hip-hop, qui sont dans le R&B vraiment de base, et du coup, qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer. Ils ont un esprit rebelle, et du coup, ils vont et taper aux portes pour pouvoir faire des choses, tu vois. Et finalement, bah, ça a été Super Thug. Ce sont Super Sbeulien qui a fait que bah, ce soit le début de l'histoire de The Neptunes pour tout le monde, tu vois. Même pour Michael Jackson. Tu connais l'anecdote sur Michael Jackson ?
Ouais, l'anecdote selon laquelle ils leur ont proposé des Rock Your Body, tous les morceaux là qui ont fini sur Justified. Mais MJ disait, non, I want the thing you have done with Nori. Super Thug. Et ça me fume d'imaginer Michael Jackson sur Super Thug.
Mais je te jure. Mais tu sais quoi ? Ah, purée. Mais d'une certaine manière, j'arrive à l'imaginer, genre, franchement, imagine maintenant, tu vois, là, t'as Nori en tête sur le sable et tout, maintenant, imagine Michael Jackson ce qu'il ferait, tu vois, donc il est là avec les dunes de sable et tu le vois en train de tourner sur le tap, et franchement, moi, en fait, moi, je capte sa vision, franchement, surtout que dans Invincible, il y a des morceaux un peu zbeulien comme ça, tu vois, parce que du coup, il a demandé des sons qu'il ne pouvait pas avoir chez Pharrell Williams, il les a demandé à Darkchild, ouais, il les a demandé à Darkchild d'une certaine manière, tu vois, c'est pas du tout la même chose, mais c'est la même chose, dans l'esprit, c'est ça, tu vois. Du coup, je vois là où il voulait en venir, en fait. C'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour lui, en réalité. S'il avait accepté les sons qui ont fini dans l'album Justified, dont on doit parler, évidemment, bah, en vérité, ça lui aurait beaucoup plus servi. Hein. Franchement, j'imagine... n'empêche, j'imagine... comment il s'appelle ça aurait été Michael Jackson feat. Clips, quand même.
Ah, ça aurait été incroyable. ça aurait été un sacré truc.
J'imagine Michael Jackson en train de faire des ad-libs sur les paroles sur la coke de... de Pusha T. Pusha T qui rappe.
Ah, ça me ruine. Ça me ruine.
Attendez. Wouhou. Non. MJ, il a pris de la coke juste avant. Ça prend un exemple.
Un des plus gros actes manqués de l'histoire de la musique, à mes yeux.
Oui, je suis totalement d'accord. Je sais imaginer le truc, je suis plié.
Oh là là. Enfin. Et ouais, donc ils obtiennent. Ça se passe avec Super Thug et à partir de là, ils commencent à développer leur truc, ils commencent à faire leur truc. Ça commence à péter. Il y a pas mal de gros morceaux déjà qui commencent à blow. Et c'est surtout en 99 que les trucs commencent pour de vrai. Parce qu'en 99, il y a quand même deux gros projets qui les mettent définitivement sur la carte. C'est Kaleidoscope et Exclusive Audio Footage. Bon, ça, c'est le premier projet. Il n'est pas... comment dire, c'est pas le projet qui m'éclipse vraiment, tu vois, sur les devants de la scène. Mais il y a ce premier projet qui sort, tu vois. Il y a cette première tentative. Ouais. Ouais. Mais surtout, le projet de Kelis... Ouais, oh là là,
ouais. Clairement, c'est une dinguerie quand tu vois ça. Oh, bah, première fois qu'on l'entend, genre Kelly, ça nous crie dans les oreilles, quoi.
Oui. Voilà, tu vois, il y a ce côté vraiment de se mettre, il y a vraiment cette volonté de se mettre à gauche du game, d'être vraiment à part, tu vois. Quand Kelly, elle arrive avec Cut Out There, c'est vraiment un cultural reset, tu vois, parce qu'elle arrive avec un truc border vraiment à gauche de tout ce qui se fait dans l'industrie à ce moment-là. Et c'est vraiment avec les Neptunes qu'ils font. Mais même la tracklist est absolument dingue. Hein. C'est un no skip. Mars, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai écouté Mars. C'était, tu sais, ce genre de morceaux, tu vois, qui te traversent. Good Stuff, pareil. Ah, Get Along With You, Ghetto Children. C'est trop, il y a
de
trop
ouf.
dinguerie dans ces albums. Et à partir de là, donc, commence un run qui est vraiment. Qui est vraiment exceptionnel. Enfin, je sais pas si toi, tu as un rapport particulier, par exemple, à cet album.
Bah, Kaleidoscope, non, pas particulièrement parce que j'ai pas grandi avec. C'est ça le truc, je pense que je suis pas. En fait, j'ai vécu et pas vécu les Neptunes en même temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout de suite, ça met, entre guillemets, l'esprit des gens qui sont là. Et je pense que personne n'aurait pu mieux les représenter que Kelis, dans un premier temps, tu vois, réellement. Genre, Kelis, c'était vraiment, comme tu as dit, en fait, c'est quelqu'un. Ah, quand tu as des Aaliyah à côté qui sont là, qui sont en train de faire leur petite musique, tu as des Brandy. En fait, tu avais tout ça, en fait, qui était très dans la ligne, tu vois, et qui avait. Enfin, Aaliyah, il y avait le son qui représentait et tout, le lifestyle et tout. Et là, tu es sur quelque chose de complètement déconstruit et tout, tu vois. Genre, Kelis, hey, you so much right now! Ah, avec la guitare, ah, putain, la prod, elle est folle! La prod, elle est folle de ce son, tu vois. Et la manière dont tout est déconstruit, où tu as ce côté vraiment hyper rebelle, hyper on va tout casser et tout, même dans Good Stuff et tout, tu vois, d'une certaine manière, c'est vraiment une bande de young kids qui sont tellement à l'opposé des autres, que ça en fait qu'ils sont grave cool. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça représente pas, ça
Ouais, c'est ça.
ressemble pas du tout à ce qui existe. En termes de sonorité, ça ressemblait à rien. En termes de proposition, ça ressemblait à rien. Surtout que Kelis, enfin, pareil, elle est là, elle a une voix grave, elle est sur du rock, elle est sur du R&B. C'est vraiment des choses qui vont dans des choses qui vont complètement différentes de ce que nous, on pouvait particulièrement kiffer et aimer à l'époque, tu vois. Mais en même temps, bah en fait, c'était fort en réalité, tu vois. Et vraiment, Kelis, elle a été la représentante parfaite de North pendant tout le run qu'ils ont eu, tu vois. C'était vraiment la muse qu'il leur fallait, tu vois. Et
Totalement.
ouais, c'est ouf ce qu'ils ont été capables de faire ensemble, musicalement parlant, en termes d'album et tout, tu vois. J'ai plus écouté l'album qui arrivait juste après, Kaleidoscope. Mais ouais, tout ça pour dire que musicalement, c'est fort. Et je pense que pour elle, ça a été aussi la bonne manière pour eux de tester des choses aussi musicalement parlant. En
Ouais,
fait, tu sentais
totalement.
qu'ils étaient libres et qu'ils devaient trouver quelqu'un qui pouvait accepter leur liberté, qui pouvait leur accepter en fait d'aller dans le délire, tu vois. Genre la personne qui dit "All right, bet", tu vois, dès que vas-y, on veut essayer ça, tu veux essayer "All right, bet", puis ils font, tu vois. Et eux-mêmes, ça leur permettrait de préciser leur style, l'améliorer leur style et tout, et d'un autre côté, de trouver la bonne personne pour représenter musicalement ce qu'ils voulaient faire, tu vois. Et finalement, ils se sont pas lâchés pendant tout ce temps. Pendant tellement longtemps, entre les prods qu'ils ont fait à gauche et à droite, enfin, je suis en train de penser au passage de Kelis dans le son de Busta Rhymes. Busta, what it is right now?
Ah
Busta,
oh, là
what it
là,
is
oui.
right now? Comment c'était fou à l'époque, tu vois.
Ah, c'était
Ah, c'était
trop.
fou. C'était
J'étais
fou,
arrivé
c'était fou,
avec
c'était fou.
ce truc-là, il était. On comprenait pas ce qui se passait concrètement, en
Non.
fait. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui résume les Neptunes. On comprenait pas ce qui. Quand ils sortaient des trucs, on comprenait pas ce qui se passait. Vraiment,
Oui, oh là
c'était.
là.
Tu pouvais pas comprendre ce qui se passait.
Oh non, c'était fou. C'était fou.
Et là, du coup, c'est le moment de parler de la deuxième étape. Donc là, c'était plus ou moins les débuts, tu vois, 97, jusqu'au moment où ils arrivent à Blow. Et là, 99-2001, c'est la période où ils commencent vraiment là à produire des blockbusters. Et là, il y a toute une batterie de morceaux, je pense, que tu connais et
Bien
qui
sûr.
sont très chers à mon cœur et qui représente vraiment l'esthétique, tu vois, qu'on retrouve dans Looking at Me avec la caisse claire bien sèche, les sons de synthé du Triton, parce qu'ils jouaient tout avec le Triton, le synthé vraiment de référence de l'époque. Tu vois, je pense à des morceaux comme Didi, tu vois. Ah, je suis pas sûr que ça soit la bonne période pour
Ah bah oui,
mentionner le
mais bien sûr,
morceau.
mais oui, mais désolé, mais je sais pas pourquoi, mais
Oh,
oui, c'est
purée.
vrai, c'est vrai. Mais franchement, oui, c'est en termes de timing, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Mais le
Ouais.
son, je suis désolé. Le
Ouais.
son, je suis
Le
désolé. De di, de wa,
ouais.
de wa, di,
Je crois que j'étais
aïe,
quelque
di,
part obligé de le
bis,
mentionner parce que
di,
c'est le morceau qui m'a fait
oh là.
découvrir Pharrell. C'est la première fois que j'ai vu la ganache de Pharrell. Et
Ah
à cette
non.
époque-là, je me suis
Mais
dit, si j'ai un enfant, je l'appellerai Pharrell.
Gros, mais tout est légendaire dans cette chose, gros. Le clip, il était légendaire. Les pas de danse étaient légendaires. Fuck him par rapport à tout ça, mais tout, tu
Oh,
vois. Tout était
ouais,
légendaire,
but.
gros.
Je voudrais pas ajouter de bot, mais bot.
Oui.
Mais oui, à cette période-là, C'est la période où ils font vraiment beaucoup de très très gros morceaux. Je peux t'en citer quelques-uns si tu veux, notamment en 2000, tu vois, The Southern Hospitality avec Ludacris, c'est n'importe quoi.
Oui, jusqu'à maintenant, c'est ma chanson préférée de Ludacris, hein.
Ah ouais?
Jusqu'à maintenant, hein, gros. Hein, je te jure. Après, il y a peut-être hésitation avec le son avec Shona, mais en vrai, jusqu'à maintenant, je crois que Southern Hospitality, c'est ma chanson préférée de
Ouais.
Ludacris jusqu'à maintenant. Et la
Pip
prod,
Poppin,
elle
c'est
est.
quand même incroyable, oui. Je te
La
comprends, je te
production, c'est
comprends.
trop. Ah non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouais, What's Your Fantasy avec.
Ah, c'est
Avec.
What's Your Fantasy.
Ouais, What's Your Fantasy avec Shona, ouais.
Ouais.
La prod aussi, elle est dingue. Mais non, en vrai, je
Ouais.
crois que c'est Southern Hospitality. Vraiment, cette production-là, c'est abusé comment j'ai remis ce son dans ma vie, en fait. C'est le plus gros repeat que j'ai fait sur un son de Ludacris, c'est sur celui-là. Il n'y a pas
Ah
photo,
ouais? Ok.
clairement. Oui,
Bah pour
oui.
moi,
Toi, c'est lequel, juste pour info?
Ouais, pour moi, ce serait peut-être Roll Out, hein. Ce serait.
Ouais, il est lourd.
Ouais, parce que tu connais Tim Timbo, mais bon. Mais sinon, ouais, vraiment, sur cette période-là, c'est vraiment la période où tu reconnais leur empreinte, leur son. Tu vois, Them Thangs avec Q-Tip aussi qui fait le refrain, j'avais oublié ça. Girl, move them thing. Girlfriend aussi avec, avec
Avec
NSYNC.
NSYNC?
Ouais.
Oui, ça donnait vraiment envie de danser devant ta copine, ça.
Grave.
Vraiment. Enfin, pas
Grave,
plus
je te sens
que.
à
Mais
mort.
vraiment. Mais pas plus que
Ouais.
Touch. Pas plus que Touch. Je suis désolé. Touch, c'est peut-être pas là.
Oui.
C'est peut-être après. Mais
Oui, c'est
Touch.
bien après.
Ah. Touch. Oh
Bien
mon Dieu.
sûr.
Gros, j'ai
Bien
un
sûr, bien
amour.
sûr.
J'ai
Ah non,
un
mais je te comprends, je
amour.
te comprends, je
J'ai
te
un
comprends.
amour pour ce son, gros. C'est n'importe quoi, ce son. Mec, je connais la Corée. Je
Ah,
sais.
mais
Je
oui.
connais.
Non,
Je
je te
connais la
sens, je te
Corée,
sens.
gros.
Normal.
Non, c'était trop. C'est un de mes clips favoris, d'ailleurs. Le clip de Touch. Hein.
Ouais.
Putain, j'étais tellement matrixé par Marianne à l'époque et ce son-là, là, la production de Pharrell avec le Touch. Touch. Ah! Non, c'était fou.
Ouais, bref. Non, vraiment, cette période-là, notamment 2000-2001, c'est phénoménal. Vraiment, je pense qu'on pourrait faire tout le podcast sur cette période-là. Je vais pas te mentir, j'ai la liste sous les yeux, mais je pense que même de tête, je pourrais t'en citer au moins une dizaine qui sont phénoménaux. Des I Just Wanna
Bah.
Love You, Girl Damn Sugar, tu vois.
Oui, bah oui, bah oui, bah de toute façon, I just wanna, ouais, clairement,
Ouais.
I
The
just
Best
wanna
You
love
Can
you.
avec The Lox. The Best You
Attends,
Can
c'est
avec
laquelle
The
déjà,
Lox.
c'est laquelle déjà, The Best You Can?
If you want me, girl, you want
Oui,
me
oui,
to
oui,
be
oui.
your man.
Oui,
Gotta
bien
wiggle the
sûr.
best you can. Da-da-da-da-da. Il y a What It Is, il y a As I Come Back. Tu vois, des trucs de ouf. Il y a Boys, I'm a Slave for You. Quand ils vont du côté de la pop, Let's Talk About It avec Jermaine Dupri. Il y a Two Wonderland avec Young, Fresh and New. I'm Serious. What's Your Name avec T.I. Mais qu'est-ce qui se passe, gros?
Non, mais gros, le
Gros,
mec avait
Young
trop
and
de
Holla
coups.
Back, Miss
Mais
There She Goes. Mais en
oui,
fait,
mais
ça, tout
oui.
ça, c'est mon. Non, désolé, j'ai Tony Danana, je pense que sinon,
Mais
je vais péter un
mec, de toute
levier.
façon, il y avait trop de trucs en
Mais.
réalité quand tu penses. Enfin, à l'époque, tu dis quand même. En fait,
Non.
tout s'est passé crescendo. T'arrives, les mecs, ils arrivent, ils font Shake Your Ass avec
Laisse
Mystico. C'était
tomber.
n'importe quoi en réalité quand tu y penses quand même.
Ouais.
Comment nous on se prenait quand on était plus jeunes, gros. Y
Non,
a
c'est
hard in here.
trop.
Y a hard in here.
Hot in Here, c'est en 2002, mais oui!
Oui,
Grave!
c'est mec, c'est ouf,
Grave!
c'est ouf. C'est ouf,
Tous
c'est ouf.
ces
Non.
trucs-là, même avec Usher, I don't know, you don't have to call. Non, non mais
Ah,
en
mec.
fait, là, tu sais,
You don't have to call, gros.
je suis en train de réaliser juste leur année 2001, il y a des gens qui rêvent, il y a des producteurs qui rêvent d'avoir juste leur année 2001. Parce que
Mais
c'est
c'est ouf de se dire que
vraiment
tout ça c'était en
fait.
2001 quand même,
Mais
hein.
oui, mais tout ça, c'est en
C'est ouf,
2001.
hein. Waouh, c'est ouf. Waouh, c'est
Et
ouf. Attends, c'était qu'est-ce? Ouais, non, c'est
dis-toi
chaud.
bien que cette année-là, c'est l'année aussi où du côté de Nerd, ils sortent In Search Of.
Bah oui, bah du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a Frontin.
Non, In Search, non, c'est
Non, c'est
Frontin,
pas
c'est
dans la chanson.
dans Neptune's Presents the Clown, et je crois que c'est en
Bah
2003,
oui, bah oui.
Frontin.
Oui, bah oui, c'est ça, c'est rien. C'est beaucoup plus loin, ouais. I'm sorry.
Ouais.
Mais ouais, du coup, ouais, c'est dehors. Bah oui, une Search Off en plus. J'avais le CD chez moi. C'était mon frère, il avait volé à la médiathèque, encore une fois. Non, mais
Je leur
mec, c'est
voudrais
médiathèque, il y
jamais.
avait tout. Franchement, mec, de toute façon, je t'avais dit. Je sais pas combien d'albums j'ai dit qu'on avait pris à la médiathèque de Sergé à l'époque. Quand je dis Sergé, mon gars, c'était une ville magique à l'époque. Moi, shout out to Sergé. Shout out to cette médiathèque où j'ai écouté du Bilal, j'ai écouté du Dipset, j'ai écouté tout ce qui existait. Et on avait l'album Une Search Off à la maison aussi, tu vois. Et ouais, tout de suite, en fait, t'es dans un délire vraiment particulier en termes d'album, musicalement parlant et tout. C'est quel morceau qui t'ont marqué dans l'album, toi?
Dans In Search Of, Oh là 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 là. Vas-y, je vais en mentionner deux parce que c'est vraiment les deux qui ont été la porte d'entrée pour moi dans ce projet. Mais c'est pas forcément mes préfs, mais c'est Rockstar et Lapdance. Rockstar, en fait, quand j'ai vu vraiment le délire skate machin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui. C'est vraiment à chaque fois que je voyais ces mecs-là avec la casquette nerd et tout, Pharrell, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je le vois pull-up dans le clip avec Britney, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui m'arrive dans ce truc-là, tu vois, avec Rockstar. Et même avec Lapdance, le clip qui est archi border, tu vois. Mais avec les images en plus de. Je crois que c'est Roméo doit mourir. Non, c'est pas Roméo doit mourir. C'est un autre film de.
De
Un autre
Jetli.
film de Jet Li, ouais. Mais. Ah, je sais plus c'est lequel. Bref. Qui, du coup, figure dans la bande. Le baiser mortel du dragon, mon ref. Dans la bande son du baiser mortel du dragon. Tu vois, c'est
Mais je
Cultural Reset à mort,
ouais.
tu vois. Et donc, ouais, moi je citerai en particulier ces deux morceaux-là dans In Search Of. Mais après, j'ai appris à aimer l'album et même des morceaux que je considérais comme des morceaux, tu vois, pas forcément importants, qu'il s'agisse de Baby Doll ou, tu vois, vraiment des albums cuts. Brain, Baby Doll, Am I High, tu vois, tous ces trucs-là. Things Are Getting Better. Tous ces trucs-là, en fait, c'est vraiment des albums cuts que j'ai négligés mais que j'ai appris à aimer sur le temps. Donc vraiment, je me prends exactement tout l'album, version UK, version américaine, que ce soit avec Spy Mob, donc le groupe, le band qui joue derrière, les guitares et tout, ou la version UK avec les boîtes à rythme où ils jouent même les trucs. Non, je me prends tout. Je me prends tout, 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 tout.
Ouais, mais de toute façon, ouais, c'est clairement quelque chose qui a un peu construit toi musicalement et hein, la manière que tu as de t'ouvrir en termes de musique et comment tu vois les choses ou pas.
Ouais,
Ouais.
totalement. Totalement, je me reconnais totalement dans ça.
Ouais, mais j'imagine de toute façon. Mais ouais, c'est ouf le tour de force qu'ils ont fait avec ce genre de projet. En fait, c'est typiquement le genre de projet où quand ça sort, et je pense que c'est comme ça la majeure partie du temps avec les Neptunes ou bien Pharrell tout seul, tu vois, c'est que quand les albums ils sont sortis, du moins dans les albums au début des années 2000, c'est des trucs où le grand public n'a pas forcément compris parce que tu es sur tellement d'influence d'un coup et tu dis comment un groupe majoritairement noir américain, tu vois, peuvent enfin se présenter là-dedans musicalement alors qu'en fait on mettait tout le monde dans des cases et on continue à le faire jusqu'à maintenant, tu vois, mais avant c'était encore pire du coup. Et comment tu fais pour comprendre cette musique, tu vois? Qu'est-ce qu'il essaie de te proposer? Qu'est-ce qu'il essaie de faire, tu vois ce que je veux dire? Mais derrière, justement, tu as des personnes comme des créateurs, tu vois, qui sont vraiment pris le truc et ça représente quelque chose pour eux, en fait, où tu n'as pas à être unidimensionnel pour pouvoir écouter et être dans certains milieux, tu vois ce que je veux dire? Si tu écoutes du rap ou que tu fais du rap, bah, tu n'es pas obligé d'être dans un délire très gangster rap et tout, tu vois? Je trouve que, justement, The Neptunes, quand ils étaient là, ils se présentaient en tant que nerd et tout. Bah, de toute façon, nerd, ça représente bien ce qu'ils sont, tu vois, vraiment des nerds de la musique, des gens qui sont à fond dedans, qui aiment ce qu'ils font, tu vois, qui aiment l'art de la musique. Bah, en réalité, au même titre que Kanye West, t'as pas à venir d'un milieu qui fait que tu es obligé de faire quelque chose, tu vois. C'est pas parce que tu fais du gangster rap que tu peux. Enfin, c'est pas parce que tu fais pas de gangster rap que tu peux pas faire du rap, par exemple, ce genre de choses, tu vois. C'est pas parce que t'es blanc, sachant que bah, le rock, on sait que c'est une musique qui est noire américaine aussi, tu vois, de base, mais. Le rock, c'est pas parce que t'es pas blanc que tu peux pas faire du rock, tu vois ce que je veux dire? Donc en
Ouais,
fait, ils étaient
totalement.
tellement un peu partout, où je pense que c'est pour ça ce genre de choses-là, où nous on sait que c'est sorti, et pour nous ça représente quelque chose, mais pour beaucoup c'est passé à la trappe, tu vois, parce qu'ils n'ont pas fait des grosses premières semaines dessus et tout, nanana. Mais en rétrospective, c'est le genre d'album qui crée des gens, tu vois. C'est le genre d'album
Oui,
qui crée des
totalement.
artistes, en fait, parce que ça te permet en fait d'aller au-delà de ce que toi tu peux t'imaginer être, tu vois. Tu peux sortir de ton spectre ou bien élargir ton spectre et te dire ok moi je suis rappeur mais je peux également faire ça parce que on est là on parle de par exemple justement de The Neptunes ils avaient leur label Star Trek comme on a dit et tout et dans leur label bah pour le coup c'était quand même des trucs qui étaient très rap t'avais du Slim Thug t'avais du Clips t'avais du Teyana Taylor enfin t'avais toutes ces personnes là en fait qui réellement sont très R&B rap même rap du sud avec Slim Thug mais d'un autre côté eux ils font des choses très très rock dans leur musique et tout. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et tu es dans un spectre qui est large, qui est ouvert. Et je pense que eux, ils ont vraiment permis d'établir tout ça, tu vois, et de créer des artistes vraiment par la suite. Et clairement, en plus de la qualité de leur musique et de ce qu'on en pense, c'est clairement quelque chose sur lequel il faut mettre un accent sur eux, tu vois. Et sur lesquels on doit les remercier, en réalité, tu vois. Vraiment. Au niveau de ce qu'ils représentent, quoi.
Totalement. C'est pour ça qu'on peut parler totalement de Cultural Reset. Et je pense qu'à partir de là, on commence à leur faire confiance parce qu'on entre dans la deuxième phase Et cette phase dont j'ai envie de parler, c'est la phase vraiment 2002-2006. Et tandis que je réfléchissais à ce dont on allait parler dans le podcast, pour moi, c'est vraiment l'époque où ils arrivent avec des singles forts, capables de transformer, pas forcément le parcours des artistes, mais de les montrer sous un nouveau jour et de les aider à se renouveler. Je pense notamment, tu vois, à Snoop. Snoop, je crois qu'à ce moment-là, il sort de son, de sa période avec No Limit et je crois qu'il a un peu, tu vois, en perte de vitesse. Je crois que faudrait que je vérifie, hein, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que la période No Limit, c'est vraiment aux alentours des années 2000.
Ouais.
Et From the Church to the Palace, 2002, et il revient avec deux morceaux avec les Neptunes qui vraiment, pour le coup, lui permettent de se renouveler et d'atteindre un nouveau statut. Enfin, de reprendre un nouveau souffle. Ces deux morceaux auxquels je pense, c'est From the Church to the Palace et Beautiful. Vraiment, ce sont deux morceaux qui, à mon avis, tu vois, arrivent à remettre Snoop en haut de la scène. Et ils font pareil aussi avec Jay-Z, tu vois. À ce moment-là, ils sortent quand même Excuse Me Miss.
Et oui, quel morceau incroyable.
Ouais, quel morceau incroyable, n'est-ce pas?
Et c'est ouais, même Mandaro, il kiffe ce son carrément, pour te dire.
Ouais, parce que, bah, exactement, voilà. C'est un parfait argument pour justifier ce que j'allais dire, à savoir le fait que ça permet justement d'entrer, de faire entrer Jay-Z dans cette période, tu vois, plus classieuse, plus adulte, tu vois. Il sort un petit peu de son côté thuggish. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il sort aussi avec eux, j'avais oublié, Change Clothes.
Oui, 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 oui. Parce que là, du coup, on arrive dans un Jay-Z un peu modeux, modax, tu vois. Moi, je suis là maintenant. Tu vois, je bois, déjà, je bois mon Crystal.
Ouais, très important. Ouais, c'est Crystal.
Le Crystal, très important. Comment il le dit, Jay-Z. Bien, oui, grave. Et ouais, t'as le Change Clothes où t'as le côté un peu plus... magnifier de la chose et tout, nanana.
Ouais.
T'as que des, bon, que des bonnes petites douceurs comme ça que t'avais dans les oreilles.
Ouais.
D'ailleurs, Change Clothes qui a contribué à la déchéance de... comment ça s'appelle? De Rockefeller. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois par rapport à Just Blaze, de l'embrouille qu'il y avait eu là-bas.
Non, du tout.
Non. J'en parle vite fait. Du coup, en fait, ils étaient sur le tournage de Change Clothes et Memphis Bleek, il voulait aller sur le tournage de Change Clothes. Normal, tu vois, il est de Rockefeller et tout. Mais à ce moment-là, il était dans une période un peu tendue avec Dame Dash. Et de toute façon, tout le monde était en tension à ce moment-là parce qu'en fait, Rockefeller, c'était sur le point de tomber. Tu vois. On était vraiment à un mot de travers et c'était fini. Tu vois. Plus personne ne pouvait se soutenir. Les clans commençaient à s'escrayer. Tu vois. Et du coup, Memphis Bleek, lui, il voulait aller sur le tournage de Change Clothes. Il arrive sur le tournage de Change Clothes et l'équipe de Dame Dash le bloque à l'entrée. Tu vois. Et du coup, Memphis Bleek, il dit, mais c'est quoi ce délire? Vous êtes fous ou quoi, tu vois? Et après, Dame Dash, il dit, ouais, vas-y, toi, de toute façon, tu parles toujours mal et tout de Rockefeller. Tu dis que ça va être mort et tout, mais ça va pas être mort, c'est mort et tout, nanana. De toute façon, toi, tu peux partir et tout, blablabla. Tu vois, il dit, ok, tu vois. Et du coup, bah, Memphis Bleek, il finit par se barrer. Il le dit à Jay-Z. Et Jay-Z, à ce moment-là, il dit, ouais, mais c'est mort, moi, c'est fini, tu vois. Là, ça a été la goutte qui a fait déborder de base. Et là, Jay-Z, il a dit à ce moment-là, ouais, c'est bon. On arrête Rockefeller dès maintenant, tu vois. Et du coup, bah, le tournage du clip de Change Clothes, ça a mené à ça. Donc, merci beaucoup, Pharrell. C'est toi qui as fait tomber Rockefeller.
Oh,
le raccourci de fou.
Le raccourci, t'as allé ouf.
Ouais, ça me tue. Raccourci digne de Mario Kart.
De raccourci vraiment de la Rainbow Road.
Je te jure. Oui. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec toi par rapport à la redirection des artistes. Juste pour parler juste des artistes dont tu as parlé, et moi particulièrement Snoop, tu vois. Parce que Snoop, je l'ai toujours respecté, mais vraiment, c'est un truc dont je parlerai. De toute façon, surtout après, tu vois, dans l'émission d'après, les gens comprendront plus tard. Mais moi, tout ce qui a été West Coast de base, j'ai toujours rejeté directement. Genre, du coup, j'ai pas tellement grandi avec Snoop, tu vois ce que je veux dire. Genre, tout ce qui était West Coast, c'est-à-dire tout ce qui était Dr. Dre, tout ce qui était Snoop Dogg, tout ce qui était Tupac, c'est des choses que j'ai prises sur le tard. Parce que j'étais un mec très East, tu vois. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans ma tête East Coast, West Coast, mais je l'ai fait naturellement, en fait, parce que j'étais... Si les gens, ils ont capté, j'étais un mec des J.D. Light. Moi, j'ai grandi, j'étais en Virginie, j'étais à Détroit, j'étais à New York. Enfin bref, musicalement parlant, ça me parlait beaucoup plus que ce qu'il y avait là-bas, tu vois. Ce qui fait que, du coup, Snoop, je ne me suis pas pris, moi, avec Doggy Style, même si les sons étaient cool, tu vois. Même si c'est des classiques maintenant, mais en tout cas, c'est comme ça que je les prenais à l'époque. Mais, du coup, après, il y a eu la redirection... Beaucoup plus R&B sympathique, on va dire, entre guillemets, un peu glamour, de, pour dire ça d'une certaine manière, qu'il a eu avec Pharrell. Et ce qu'il a fait avec R&G, pour moi, c'est une dinguerie, en fait. Ça veut dire qu'il a donné une deuxième carrière.
Exactement.
ils ont donné une deuxième carrière à Snoop Dogg. Ça veut dire que Snoop Dogg, à la base, était censé être un vestige du passé. C'est ça qui était en train de se passer en réalité. Il n'arrivait plus à sortir quoi que ce soit qui était bon. Il se perdait dedans, tu vois. Et là, tu te retrouves avec RNG, du coup, qui arrive plus tard, où vraiment la carrière de Snoop Dogg, elle prend un nouveau tournant. Et en même temps, ça le rend plus pop, entre guillemets. En fait, l'album, il est plus pop déjà de base, tu vois. Et du coup, ça le rend plus populaire auprès du monde extérieur, tu vois. C'est le Snoop Dogg qui est pas juste un gangsta rappeur, tu vois, mais c'est un gangsta rappeur lover. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Mais ouais, voilà, sans vouloir... on peut reparler encore après, parce qu'en vrai, il y a grave des sons que j'adorais dedans, mais... pour te dire que dans ce sens-là, je vais totalement dans ton sens et t'as totalement raison, oui.
Ouais, totalement. Il y a cette capacité. Non, c'est Pay the Cost to be the Boss. Je suis un ouf. From the Church to the Palace.
Non, c'est ce que t'as dit.
C'est le titre du morceau. Non, je pense que j'avais dit From the Church to the Palace en voulant mentionner l'album, mais en fait, c'était Pay the Cost to be the Boss.
Ah, ok.
Dans lequel il y a du coup From the Church to the Palace et Beautiful qui sont les deux gros singles qui mettent l'album en avant et qui changent du coup la carrière de Snoop. Qui lui donne un nouveau souffle. Il y a plein de ces morceaux qui sont capables de faire ces trucs-là. Hein. Il y a des morceaux incroyables quand même dans cette période-là. Ouais, on a parlé d'Excuse Me Miss. On pourrait très bien mentionner aussi Like I Love You, qui est le morceau qui permet à Justin Timberlake de quitter NSYNC et de réussir la transition en solo.
C'est une folie. C'est vraiment une folie ce qui s'est passé. De toute façon, tu vois, juste pour dire que, en fait, je trouve que la transition de Justin Timberlake, je trouve qu'elle a déjà été bien faite, déjà à travers The Neptunes, parce que du coup, on parlait de Girlfriend avant.
Ouais.
Et en fait, où on était... En fait, je pense que c'était dur de définir un peu... Il y avait les Backstreet Boys et il y avait NSYNC, tu vois. Et clairement, les NSYNC, ils n'étaient pas au niveau des Backstreet Boys, tu vois ce que je veux dire, même si on les connaissait tous et tout. Ouais. Mais là où ils ont commencé un peu à créer cette séparation, c'est que... les Backstreet Boys avaient leur côté un peu plus New Jack, un peu old school, qui restait très pop. Et les NSYNC qui commençaient vraiment à se diriger vers le R&B, vraiment, tu vois. Genre Girlfriend, c'est un vrai son de R&B, tu vois.
Oui, oui.
Et avec les chœurs et tout, la production, tout ça, tu vois, c'est vraiment un vrai son de R&B. Et je trouve que ça a été vraiment parfait pour mener justement à ce qui s'est passé avec Justin Timberlake quand il s'est lancé en solo, où là, on est sur du full R&B hip-hop et t'arrives avec Like I Love You, vraiment, avec sa production de dingue, c'était fou. C'était fou quand ce son est arrivé. Ça, c'est vraiment... Tu vois le même qui reprend un manga, il y a des mecs qui tiennent un Asiat dans les bras et c'est des renois et ils disent « You okay, white boy? You okay? »
Bah, non, je l'ai pas.
Tu parlais que c'était ça. Justin Timberlake, c'était ça, gros. En plus, arriver avec Clips, donc ça veut dire que c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'il aurait pu arriver avec je sais pas qui d'autre de populaire, tu vois. Mais c'est vraiment du Minecraft genre Neptunes, tu vois. Ils prennent le Clips comme côté rap, tu vois ce que je veux dire, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. Mais là, en fait, ce mec, il arrivait tout de suite les pieds dans le plat dans la culture, tu vois. Tu pouvais que l'accepter. Tu pouvais que accepter Justin Timberlake avec un single.
Vous pouvez rien dire.
Ce bout qui s'est dansé comme un bâtard, il s'est chanté comme un bâtard, il y a le passage d'Eclipse dedans qui est lourd, et parlons du bridge.
Ah, mais oui.
I just wanna love you, babe. Yeah.
Non, c'est incroyable, c'est vraiment... Ça aussi, c'était quelque part une espèce de cultural reset. Même à certains moments, même, j'ai cru qu'il y avait un truc tellement différent, tellement frais, tellement original que je pensais que la production et que le clip et que tout était fait en Europe. Que même Justin Timberlake, tu vois, il était européen. Tellement il y avait ce truc vraiment différent, même dans l'étalonnage, dans l'image, dans le grain. Il y avait un truc vraiment différent de ce qui se faisait à l'époque. Et moi, c'est ça que je trouve particulièrement époustouflant dans la carrière des Neptunes. Vraiment cette capacité à chaque fois à changer des carrières, à créer des singles, des moments iconiques dans les carrières des artistes. Et surtout... Autre chose aussi, la raison pour laquelle je fais commencer une deuxième section de ce podcast à partir de 2002, c'est parce qu'on sent qu'ils commencent à se détacher de leur son d'origine et ils commencent à faire des trucs un peu différents. Par exemple, What It Is, c'est un peu encore, on retrouve encore en partie le son de l'époque, le son à l'ancienne, mais... y a une volonté de renouvellement, tu vois. Il y a des passes de Courvoisier qui sortent à cette époque-là, qui apportent, tu vois, un certain renouvellement. Il y a plein de choses. Il y a des trucs fantastiques, tu vois, qui sortent à cette époque-là et qui apportent du renouvellement. Il y a plein d'autres morceaux encore, tu vois, comme Hit the Freeway.
Il y a Hit the Freeway aussi, comme on a dit.
Ouais, Britney Spears avec Girls et I'm a Slave
Mais
for You. Mais là encore,
là,
on est
c'est
encore un
pour
petit
lui, ouais.
peu. C'est
Là, c'est plus
un peu
tard.
un son de. Non, c'est à cette période-là, mais c'est un peu un son de transition, je trouve personnellement,
Oui, mais c'est exactement
dans
ça.
leur
C'est dans l'idée.
esthétique.
Ouais, bah ouais. Bah, de toute façon, c'est dans l'idée aussi où, justement, ça rejoint ce que tu dis, parce qu'en réalité, et c'est ça qui a été fort, justement, dans cette période-là. Enfin, après, il y a des légendes urbaines qui disent qu'ils représentaient 40% du son à l'époque. Parce qu'ils étaient tout le temps à la radio, tu vois. Donc, ça veut dire 4 sons sur 10, c'était eux qui étaient là, tu vois. En réalité, ça, il n'y a jamais eu de vrai truc qui le prouvait, mais bon, en même temps, ils étaient tellement là partout, tu vois. Et justement, ça se traduisait par ce genre de choses-là, tu vois. Et comme tu as dit, ce côté-là, changement, bah, il s'est appliqué partout, il s'est appliqué dans la pop. En fait, en réalité, je pense que d'une certaine manière, il poussait les artistes à se rebeller par rapport à ce qu'ils représentaient de base, tu vois. Snoop était déjà rebelle, bah du coup on le met dans un autre carcan où il était beaucoup plus sympa, jovial et tout, tu vois. C'est le pimp enjoliveur, tu vois. Et là, t'avais Britney Spears. Ben, en vrai, tout le monde fuckait déjà avec Britney Spears, tu vois ce que je veux dire. Mais il fallait qu'elle montre qu'elle était plus seulement la petite ado présente, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il fallait marquer un grand coup et montrer que c'était venu une meuf dangereuse, tu vois. Et t'arrives avec Slave for You, ou justement dans ce délire en plus, où déjà les gens qui sont dans la pop, ils kiffent déjà toi, donc ils vont continuer à kiffer, et t'arrives à apporter un nouveau public, donc une personne qui kiffe un peu plus le R&B et tout, avec ça, parce qu'en vérité, c'est ce qu'elle a réussi à faire, tu vois. Genre, Britney Spears, je fuckais déjà avec elle, tu vois, mais quand elle arrivait avec Slave for You, c'était vraiment une folie, genre c'était le gros choc quand elle arrivait avec le clip, la production, enfin tout quoi. C'est en réalité, c'est encore une fois le génie de The Neptunes d'être capable vraiment d'apporter ce gros switch dans la carrière des artistes. Et en réalité, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, tu vois, parce que tu dois donner une nouvelle image aux personnes, tu vois. Et en plus, ça revient à ce que, comment il s'appelle, c'était Teddy Riley qui avait fait la même chose avec Bobby Brown à l'époque, avec le New Jack, tu vois. Donc en vérité, c'est vraiment eux qui s'inspirent du père, tu vois. Donc, ouais.
Enfin, pour parler de cette capacité de renouvellement, il y a peut-être un dernier morceau dont on parlera rapidement, je pense, parce qu'il est relativement important. Quoique, il y en a plusieurs. Mais bon, allez, puisqu'il faut faire un choix, on va tout simplement mentionner Milkshake.
Oui, quelle folie, quelle folie, quelle folie.
Sacré morceau aussi qui a effectivement, tu vois, vraiment été capable de bouger la carrière de l'artiste. Ah, mais je savais pas qu'ils avaient produit aussi Pussy Poppin. Bah tiens. Et ouais, c'était pas forcément à ce morceau-là que je pensais. Donc c'est. Bon, vas-y, je vais quand même le glisser parce que c'est important. Mais oui, il y a eu effectivement ce fameux milkshake. Et. Ah oui, c'est Hot in Here. Hot in
Oui,
Here, tu
hard in
vois.
here, bien sûr, bien
Ouais.
sûr, bien sûr, bien sûr,
Nouveau
hard
souffle,
in
encore
here.
une fois, pour la
Oui.
carrière de Nelly, tu vois. Et en plus de ça, peut-être une dernière chose qui serait importante de mentionner en ce qui concerne leur esthétique et tout, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de leur esthétique, c'est quand même important aussi pour les auditeurs, bon, très probablement qui sont familiers du son des Neptunes, mais il y a vraiment plus ou moins deux, trois lignes en ce qui concerne les Neptunes. Il y a cette ligne vraiment avec des beaux accords, des belles progressions, des choses hyper harmonieuses, et c'est pour ça notamment qu'ils étaient réputés pour leur bridge. Et ça, c'est encore une fois l'influence de la musique des 70s. Par exemple, je n'ai plus la référence du morceau dont ils sont inspirés pour Hot in Here, tu vois. Mais c'est un morceau, par exemple, des 70s bien funk. Ils étaient pas mal fans aussi de Slave, tu vois. Enfin bref, tu vois, la funk vraiment 80s et beaucoup de Stevie Wonder aussi. Quand on écoute notamment In My Mind, évidemment,
Oui, il y a même
l'influence de
des
Stevie Wonder.
grands passages à l'harmonica aussi dans l'album, tu
Oui,
vois.
exactement.
Donc, ouais, on est clairement dedans. De toute façon, on entend vraiment. De toute façon, on entend un peu de tout ça dans In My Mind. T'as totalement du MJ dans la manière qu'il a de monter dans les aigus un peu. T'as du Prince, de toute façon. Donc, il a essayé de bosser avec Prince à plusieurs reprises et tout. D'ailleurs, parce que c'était pour
Ouais,
Frontin, à la base, il
exactement.
avait proposé à Prince. Mais Prince, il s'est pas pris le truc. Il a juste dit non. Il a juste dit non. Et finalement, c'est devenu le son que c'est devenu aujourd'hui, tu vois. Donc oui, clairement, toutes ces ambiances-là, c'est au final, c'est ça qui font vraiment qu'ils ont une musicalité qui est à part, au final, comme tu as dit, tu vois, en termes de code et tout. Ah oui, je voulais juste dire ça.
Ouais, totalement. Et d'un autre côté, tu vois, il y a cette extrême simplicité, ce minimalisme qu'on retrouve sur des morceaux comme Mr. Me Too ou encore
C'est bien, tu fais bien de le
Grindin.
mentionner. Mais bien
Grindin,
sûr.
quand
Oh,
même, parce que.
Grinding, d'ailleurs, un des meilleurs morceaux de l'histoire. Je tiens à le dire. Un des meilleurs morceaux de l'histoire, c'est trop n'importe quoi. Enfin, les clips, franchement, pour la majeure partie des gens, c'est comme ça en fait qu'on a connu les clips, tu vois. Et comment mieux s'introduire que ce truc-là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Quelle prod de fou. Vraiment, faut être complètement taré pour se lancer dedans. Et d'ailleurs, c'est, enfin, avec les clips, parce que vraiment, déjà, ils ont vraiment construit leur histoire avec les clips aussi. Parce que d'un côté, ils avaient Kelis pour tout ce qui était vraiment R&B, tenter des choses là-bas. Avec les clips aussi, c'était l'occasion pour eux de tester énormément de types de productions vraiment particulières. Genre, par exemple, dans El Half No Fury, je me rappelle que les clips, ils avaient parlé justement de Mr. Me Too. Et ils disaient qu'ils ont commencé avec Mr. Me Too parce que c'est à partir de ce moment-là que les premiers ont commencé un peu. Avec The Neptunes, les labels, ce genre de choses. Pour Mr. Me Too, il voulait se lancer sur une prod, enfin, entre guillemets, le single qu'il voulait, il voulait que ce soit quelque chose qui ne soit pas conventionnel, tu vois. Et du coup, bah, Mr. Me Too, ça n'a rien de conventionnel en termes de production, tu vois ce que je veux dire? Tu te demandes presque comment les personnes peuvent poser dessus, mais ils ont totalement fait le taf et ont été, enfin, musicalement et esthétiquement, il se passe quelque chose de fort, tu vois. Tu penses au clip et tout. Avec Pharrell Williams, c'est sa grosse chaîne et tout, son foulard sur la bouche et tout, et non, comment il était grave stylé dessus. Enfin bref, c'est juste cool et stylé, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, ils se vendent de trucs, ils te vendent ce truc-là où c'est un mélange d'univers, parce qu'en réalité, et c'est ça qui est drôle, c'est que Pharrell et The Clips, visuellement, ils ont pas du tout le même univers, tu vois. Vraiment, ça n'a rien
Non.
à voir. Mais du coup, ce mélange d'univers dans ce clip-là, c'est ça qui rend le tout vraiment particulièrement stylé, tu vois. Et en termes de production, Mr. Me Too et tout, c'est vraiment ce que ça a été de particulièrement fort, tu vois. Et
Ouais.
donc, avec le son électronique et tout. Shout out to what happened to that boy aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce son, c'est trop fou.
Ouais. Non, vraiment, il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Et ce qui les distingue donc des autres producteurs, que ce soit de Kanye, de Timbo, bon, déjà, pratiquement pas de sampling, effectivement. Pratiquement pas de sampling, ce qui est plutôt rare pour l'époque. Beaucoup de compositions. Et effectivement, un son frais et toujours des idées archi originales. Partir d'un concept archi original et créer des choses surprenantes. Avec notamment l'esprit de Chad Hugo qui est toujours capable d'aller loin, tu vois, dans l'utilisation des machines. Il y a une vidéo, même où on le voit en train d'utiliser, en train de manipuler les machines, des synthés extraterrestres, produire des sons venus d'outre-tombe ou venus d'outre-espace, tu vois. C'est complètement dingue ce qu'il arrive à faire avec ça. Et ouais, c'est comme ça qu'il arrive
Juste,
à
on
obtenir
m'a
ce truc
dit,
vraiment original. Oui.
de ce que j'ai entendu du coup, c'était que Pharrell Williams, il imaginait les choses et Chad Hugo, il arrivait à les mettre en place. C'est ça le truc du coup, musicalement parlant. Ouais, je te demande en fait.
Ouais, bah, c'est comme ça qu'ils décrivent parfois en interview leur dynamique.
Ok. Ouais, non, c'est pour ça justement, histoire de. Bah, en fait, c'est un peu parce que du coup, vu qu'on les met souvent ensemble et qu'on a vraiment souvent Pharrell en tête d'affiche, tu vois, les gens, ils peuvent avoir du mal à savoir à peu près quel est le rôle de Chad Hugo dans tout ça en réalité, tu vois, dans les Neptunes. Parce que et là, le truc, c'est que de toute façon, la manière dont ils sont dispatchés les choses, c'est vraiment que Pharrell, il est in the forefront, c'est lui qui est devant, tu vois. Même si au début, en plus, c'est même pas forcément ce qu'il voulait, mais maintenant, c'est Pharrell qui chante, c'est Pharrell qui se présente et tout, tu vois, on a les frontines et tout, c'est la tête, quoi. Et t'as Chad Hugo qui est derrière. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait dans le process musicalement, comment il se place et tout, nanana. Donc voilà, du coup, c'était intéressant de voir justement la dynamique qu'ils ont entre les deux. D'ailleurs, qui moi aussi, j'ai complètement découvert particulièrement ici, tu vois, comment ils arrivaient à travailler tous les deux et le génie qu'il avait, Chad Hugo, justement, dans la manière qu'il avait de maîtriser les choses et même les instruments au fil du temps. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi qu'il faut savoir avec eux, c'est qu'entre albums, par exemple, des Nerds, ils se sont beaucoup améliorés en termes d'instrumentalisation de ce qu'ils étaient capables de faire musicalement, parce qu'avant, ils étaient vraiment très électroniques, entre guillemets, c'est ça, tu vois. Et après, ils ont décidé réellement de se mettre à des choses plus orchestrales, ou dans le deuxième album de Nerd, ou le troisième, celui avec She Wants to Move, il me semble. Non, dans le
C'est le
deuxième.
deux. Ouais, c'est le deuxième.
Voilà. Tu vois, où ils ont commencé à vraiment jouer des réels instruments. Il y a Pharrell Williams qui s'est mis à la batterie, il y a Chad Hugo qui s'est mis à la guitare, histoire que ce soit mieux, tu vois, parce que sinon, justement, ils comptaient sur le groupe anglais avant pour tout ce qui était vraiment instrumentalisation, tu vois, mais ils voulaient vraiment avoir la main dessus. Et Chad Hugo, il avait beaucoup à voir dedans là. De toute façon, Chad Hugo, dans tout ce qui est les hooks, les bridges, il a une réelle pensée dessus, tu vois. Les bridges de The Neptune, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des choses
Ouais.
qui les définissent tellement musicalement, leur bridge, c'est fou. Franchement, tu sais, je repassais aux chansons là, et j'étais en train de me faire presque une liste un peu des bridges qui, moi, m'ont marqué. Bon, déjà, Wanna Love You Girl de Robin Thicke. Le Wanna Love
Je...
Girl, Wanna Love,
Ouais.
I'm so glad that I found you. Tu vois ce moment-là, le moment où
Ouais, bien
ça
sûr, bien
change de.
sûr.
Ouais, franchement, c'était trop fou. Celui de Frontin aussi, évidemment, où franchement, t'as l'impression de t'élever, tu vois. C'est
un des meilleurs bridges de tous les temps, à mes yeux.
Mais vraiment, c'est une folie, en fait. Je pense que dans le rap R&B, je sais pas qui d'autre fait d'aussi bons bridges qu'eux, hein, franchement.
Ouais, She Wants, totalement.
Franchement, She Wants to Move, le bridge de She Wants to Move, franchement, ça m'a donné des frissons, hein. Ils ont des bridges où t'as juste envie de revenir dessus, en fait. T'as envie de rester là. Et tu bouges plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Like I Love You aussi, le bridge, il est fou. C'est abusé. C'est abusé ce qu'ils sont capables de faire en termes de bridge. Mais ouais, mais Frontin, tu t'élèves, quoi. T'es plus sur
totalement.
Tête.
À la fin, totalement. Totalement.
Oh my God.
Et ouais, on pourrait parler encore longtemps, en fait, de toute cette période-là. À partir de 2002, c'est vraiment des hitmakers, pour résumer un petit peu ce qu'on disait. C'est vraiment des hitmakers 2002, 2009 même. On peut aller jusqu'à 2009 parce qu'après, il y a Hard Candy, il y a quand même encore des projets un peu iconiques. Mais ouais, toute cette période-là, c'est vraiment la période où ils deviennent des hitmakers, des moneymakers avec Ludacris, Blue Magic, avec Jay-Z.
Bien vu. Moneymaker, je sais pas si c'était un jeu de mots que t'étais en train de faire, mais
non, du tout.
Ah ouais, bon, franchement, c'est bien. Parce que tu dis ils deviennent des moneymakers, et je me dis ah bah, bien vu avec la chanson avec Ludacris, bonne transition. Je valide.
Non, je voulais vraiment dire qu'ils étaient vraiment des money et des hitmakers pour le coup, tu vois. Et ouais, donc ça donne des choses hyper intéressantes. Mais ouais, on pourrait encore faire toute une partie du podcast, tout le podcast même sur cette période-là, mais bon, c'est difficile de transiter. Mais on peut aussi ensuite parler de leur legacy, parce que on peut dire que à partir de fin 2008, bon, après il y a encore un projet de Nerd, il y a Nothing, et je sais pas si on peut inclure Nerd, c'est les Neptunes, mais bon, il y a Nothing, et purée, comment j'ai pu oublier l'album précédent, juste avant, celui dans lequel il y a Kill Bomb, You Know What et tout. Sing Sounds. C'est bien sûr, c'est Sing Sounds.
Bah oui, Sing Sounds. Ah ok, je pensais pas que tu parlais de celui-là. Bah oui, Sing Sounds, évidemment.
Ouais. À partir de là, tu vois.
Ouais, il a dessus aussi.
C'est ça. À partir de là, on sent un petit déclin et une espèce de split entre les deux. On n'a pas l'impression qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit, mais il y a un split quand même.
Bah en fait, tu sais, ça peut s'expliquer par une chose déjà. C'est que dans cette période-là, il s'est passé la fameuse période de l'EDM.
Effectivement.
2007. Ouais, tu vois, on est dans 2007-2008. Ce qui fait que eux qui ont un son unique ont commencé à leur demander des sons qui étaient beaucoup plus dans la veine de ce qui se passait à l'époque, tu vois. Ça veut dire des sons beaucoup plus EDM et tout de ce côté-là, tu vois ce que je veux dire. Mais le délire, c'est que ces boucles-là, c'est des gens qui ne compromettent pas leur son, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ils ont leur son à eux, donc voilà, c'est déjà un melting pot de beaucoup de choses. Et eux, c'est des choses qu'ils n'ont pas particulièrement chauffées, ce qui fait que déjà, ils se sont désintéressés de ce qui se passait à l'époque. À côté de ça, tu as aussi des problèmes qu'ils avaient avec leur label, parce que justement, je parlais de El Half No Fury juste avant, tu vois. Et le truc, pourquoi ils ont sorti Mr. Me Too avant, comme j'ai dit, ils voulaient quelque chose de pas conventionnel, mais pourquoi ils se sont permis de sortir un single qui n'était pas du tout conventionnel, c'est parce qu'ils savaient que l'album n'allait pas marcher, parce qu'il n'allait pas être poussé par le label, tu vois. Ils savaient qu'ils en étaient à là, en fait. Parce qu'en réalité, on parle beaucoup, nous, de Pharrell et tout, enfin, de Neptunes et tout, par rapport à tout ça, de tout ce qu'ils faisaient et tout, musicalement parlant. Mais quelquefois, ça ne les empêchait pas d'être mis sur le carreau, justement, quand eux, ils voulaient faire leur propre truc, quand eux, ils voulaient penser leurs propres artistes, tu vois. Et même Pharrell Williams, par exemple, The Neptunes marchait en termes de production, tu vois. Mais Pharrell Williams, il n'avait pas du tout l'aura qu'il a eu aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il a eu réellement, quand on y réfléchit bien. Il a eu beaucoup plus tard. Il a eu avec. Genre, quand il a reçu son étoile pour Happy. C'est pour ça qu'il a reçu son étoile à Hollywood, tu vois. Il a reçu son étoile pour Happy. Et avant ça, il y avait eu quoi en réalité? Il y avait eu Blurred Lines.
Oui.
Tu vois, Blurred Lines. En vrai, c'est à partir de là, vraiment, que ça a commencé à être intéressant dans la phase pop de Pharrell Williams, tu vois. Mais avant ça, ils avaient toujours des phases où ils étaient un peu. On leur manquait de respect un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc, il a fallu passer par une phase un peu alchimistienne, où même si, bon, clairement, Pharrell Williams, il a moins eu de problème à se caler que The Alchemist pendant une période, tu vois, il a quand même eu besoin de tâtonner et pour pouvoir trouver l'aura qu'il a aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. En réalité, on se rend compte que ça fait vraiment depuis Blurred Lines, même s'il a toujours été ce mec cool, mais en tout cas, d'un point de vue populaire, qu'il est revenu, tu vois. Même si c'est pas quelque chose qu'il fait aujourd'hui, mais il a eu sa grande période qui lui a permis de passer un cap vraiment d'un point de vue pop. Et donc voilà, ça c'est un truc qu'on oublie parfois, tu sais, parce que on a tellement toujours grandi avec Pharrell Williams, mais genre Frontin, par exemple, pour nous qui a été. C'est un indémodable, tu vois. En réalité, il y a des personnes qui ne connaissent même pas, quoi.
Ouais,
Et ça,
totalement.
Ouais, ça semble être
Totalement,
fou, mais.
totalement.
Donc voilà, en tout cas, ouais, pour le Finding Out, dans cette période-là où il y a eu cette perte, ce déclin-là, où ils se sont un peu séparés, ils ont fait ça, c'est. Je pense particulièrement à ça, et c'est là où Pharrell Williams, qui était le visage, évidemment, c'est celui qui prend le plus ses aises, c'est lui qui représente quelque chose, parce qu'en termes de style, il a la mode déjà, il fait ses trucs avec Nigo pour Bape. Donc il représente beaucoup de choses en fin de compte, Pharrell, et puis en vrai, enfin, il représente vraiment ce gars que tu as envie de devenir, Pharrell Williams,
Ouais.
tu vois ce que je veux dire? Alors que Chalugo, il a toujours été dans le background, tu vois, il a toujours bossé avec des gens un peu derrière, tout ça, nanana, et comme tu as dit, même s'il n'y a pas eu de séparation, même si, enfin, tu n'as pas l'impression qu'ils soient en mauvais termes, mais voilà, chacun faisait son bout de chemin, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on va mentionner aussi shout-out. Il faut le mentionner. J'y avais pas pensé, mais il faut le mentionner. C'est trop important. Make sure to see my face de Kenna.
Oui, bah 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 oui,
Oui.
bah oui, bah oui, c'est vrai qu'ils ont grave bossé. Et
Face
du coup,
the gun. Fight them always. Say goodbye to love. Non, il faut mentionner cet album dans ce
Bien
podcast.
sûr.
Je suis désolé. Ouais, non,
Ok.
j'allais oublier,
Le message est
mais.
passé.
Ouais. J'espère avoir été entendu, hein, vraiment. S'il y a des neugeux qui n'ont pas écouté ça et qui. Voilà, parce que c'est un truc un peu low-key, c'est vrai. C'est un truc un peu spé, mais il faut aller écouter ça. C'est vraiment un album de la blog era, un truc un peu bizarre, un peu hybride entre vas-y, le rock, machin, R&B alternatif. Mais c'est fou, c'est dingue. Et il y a beaucoup de Chad Hugo tout seul, donc on peut capter en fait l'énergie, la vibe de Chad Hugo. Parce que Kenna, c'était un mec affilié au Neptune. D'ailleurs, on n'a pas mentionné Star Trek, mais c'est
Si, je l'ai
le label
mentionné,
qui fait.
hein.
Ah, autant pour moi, je suis un
T'inquiète,
ouf.
tu l'as mentionné aussi en plus au début. Donc, non, t'inquiète, ça a été fait. On a mentionné avec les gens qui étaient là-bas, tout ça. Les Slim Thug qui étaient là-bas,
Oh là
Lil
là, mais
Tay Annette
oui.
qui était là-bas.
Mais
Genre,
oui.
Google Me, c'était Pharrell. Du coup, c'était vraiment
Ouais.
une de ses petites, tu vois. Avec qui, attends, mais Pharrell, d'ailleurs, maintenant, je suis en train de penser, parce qu'en termes de direction artistique, qui est-ce qu'il a réellement géré un peu ils ont géré Kelis, en réalité.
Ouais.
Ouais, enfin, bref, voilà, tu vois, il faisait partie des personnes, Tay Annette qui était là-bas. Clips, évidemment.
Ouais.
Même si Clips, je suis pas sûr qu'il était signé là-bas. Robin
Si, si,
Thicke,
si,
qui était
si,
là-bas. Voilà.
ils étaient chez Star Trek Eclipse, ouais.
Bah voilà. Bah, Clips, voilà, chez Starstruck. Il y avait Robin Thicke qui était là-bas aussi.
Ouais.
Donc voilà, de toute façon, on le voit très bien avec le When I Love You Girl et tout. Et son bridge exceptionnellement exceptionnel.
Ouais.
Donc ouais, Star Trek, je fais le signe de la main
Ouais. Et
là.
à partir du split, c'est surtout Pharrell qui fait des trucs de son côté. Hein. Il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs comme Bush. Les gens mettent le doute sur Bush, mais ça reste quand même un bon album, tu vois. Et il développe son esthétique toute particulière après ce qu'il fait avec Happy. Ça plaît pas à tout le monde. Par exemple, ce qu'il fait sur Girl, moi je trouve ça bien. Sa voix sur Get Lucky, je trouve ça bien aussi. Donc vraiment, c'est vraiment, tu l'as bien mentionné, le moment de l'iconisation de Pharrell. Et pas de la mise au banc, mais vraiment du retour, enfin, de la discrétion de Chad Hugo qui continue de faire ses trucs de son côté et tout. Et enfin, il y a une espèce, c'est pas un retour en grâce, mais on sent qu'ils sont encore là aujourd'hui dans l'industrie. Ils n'ont pas une importance de fou, c'est pas des producteurs qu'on va systématiquement chercher. Ils sont pas aussi bankable au sens premier du terme, tu vois. Mais ils ont encore aujourd'hui, je trouve, une bête de longévité parce que, vas-y, depuis 2018, ils ont quand même des morceaux qui sont relativement marquants, tu vois. Moi, par exemple, de mon côté, Ape Shit, c'est un morceau marquant, tu vois.
Oui, d'ouf, d'ouf,
C'est
d'ouf,
assez
d'ouf, d'ouf.
ouf.
Ouais, c'est vrai, je suis grave d'accord. La production, elle est complètement folle de ce son. C'est vraiment une dinguerie. Après, moi, c'est vrai que Nerd, tu vois, en tant que, pardon, The Neptunes, en tant que duo, ils ont eu des moments de trou et tout. Je crois que Gotta Have It, de l'album Watch the Throne, c'était The Neptunes aussi.
Ouais.
Ouais, c'était The Neptunes aussi. D'ailleurs, c'était marrant parce que du coup, en fait, ils étaient en train de dire qu'il y avait eu une battle de prod entre Kanye West et Pharrell Williams pour le son. Ils se sont battelés jusqu'à trouver la concordance des deux et en arriver à ce qu'on a eu, tu vois. Mais dans tous les cas, Pharrell Williams, il a continué à être vraiment actif pendant cette période-là, tu vois, en réalité. Et pour moi, le fait que Pharrell soit là, ça compense un peu pour les deux, tu vois ce que je veux dire? Genre, d'une certaine manière, en fait, enfin. Comment dire? Pharrell, il représente tellement l'esprit The Neptunes, de toute façon, quand il fait les prods, pour moi, l'âme de The Neptunes a toujours été présente. Mais c'est vrai que The Neptunes, ça fait vraiment 2 ans, je crois, qu'ils se sont remis officiellement ensemble. à rebosser ensemble avec des personnes, tu vois. Et puis voilà, ils ont quand même des gros placements ici et là, tu vois. Enfin, genre, je sais qu'il y avait dans la dernière album de Lato, ils étaient là. Après, il y a Pharrell Williams. Là, ouais, mais Pharrell Williams, il était dans des albums de Kendrick Lamar, évidemment. Il y a All Right, c'est lui. Il y a Mr. Morale, dans le dernier, c'est lui. Donc voilà, il y a toujours un esprit nerd qui existe. C'est quelque chose qui est quelqu'un des gens qui sont toujours sollicités. Et je pense que de toutes ces personnes dont on a parlé jusqu'à présent, il n'y a que deux personnes qui ont réussi à avoir une longévité aussi intéressante. Il y a The Neptunes et il y a Kanye West. Kanye West, plus au-dessus encore, en réalité, parce que vraiment, c'est un mec qui est sollicité, sauf quand il est problématique, tu vois. Mais même quand il est problématique, les gens, ils ont envie de continuer à travailler avec lui, en fait, tu vois. Et The Neptunes, je pense que c'est top 2. J'ai du mal à avoir quelqu'un d'autre, même parmi les superstars, qui soit autant sollicité que Kanye West et The Neptunes, quoi.
Ouais, ouais. De cette époque-là, effectivement, je pense que c'est ceux qui ont la meilleure longévité. Et j'irai même plus loin. Il y a un peu de ça chez Timbo, mais notamment, en fait, même si on n'a plus les Neptunes, on a l'esprit Neptunes avec Tyler, the Creator et tout le mouvement autour de Hot Future. En fait, il n'y a plus de Neptunes à proprement parler, mais l'esprit des Neptunes, la volonté des Neptunes, telle que la volonté du dé, continue, perdure, tu vois, à travers notamment les mecs de Hot Future, tu vois. Ouais. Toute la bloguera est de toute façon inspirée par les Neptunes, d'une certaine manière pour moi, tu vois. Des Mac Miller et tout, c'est inspiré par les Neptunes d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, l'esprit, la volonté, le mindset des Neptunes est hyper influent, notamment à cette époque-là. Même des A$AP Rocky qui sortent à cette époque-là, très fortement influencés aussi par les Neptunes. Donc même s'ils sont plus sur les devants de la scène, leur esprit, leur mindset demeure, et c'est pour ça en fait qu'ils ont cette longévité-là et qu'on peut encore aller les chercher aujourd'hui, même si c'est vraiment de qualité inégale. Par exemple, les morceaux sur le Pusha T, moi je les ai pas trouvés ouf, tu vois.
Ah ouais, sérieux?
J'ai trouvé convenable.
Sur l'album de Pusha T? Ah ouais?
Ouais, je les ai trouvés convenables, mais pas ouf, tu vois. Pas ouf. Mais à côté de ça, tu vois, il y a des In Your Eyes.
Call My Bluff, j'avais beaucoup. Ouais, In Your Eyes de Snow Allegra.
Snow Allegra, ouais.
Oui, désolé, donc, tu disais, je t'ai coupé. Parce que j'étais en train de penser à Pusha T, je me disais, damn, un peu un manque de respect quand même. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Il Call My Bluff déjà, bien lourd. Le son avec Jay-Z, c'est lui qui l'a produit. Celui-là, ouais, c'est lui qui l'a produit avec Jay-Z. Enfin, c'est eux qui l'ont produit avec Jay-Z. Il y a quoi d'autre? Non, Diet Coke, déjà, c'est pas eux. Scrap It Off, il me semble que c'était Pharrell Williams, j'avais bien aimé. Non, moi, je te trouve un peu dur. Je te trouve même totalement dur pour la bonne de Pusha T.
Ah, ok. Ouais, okay.
Après, peut-être que la magie de l'interprétation de... Mais c'est vrai qu'il n'y a quand même rien d'aussi, peut-être, iconique, on va dire, que ce qu'ils ont fait avant. Mais j'ai trouvé l'album très lourd, tu vois. Maintenant, est-ce que, par exemple, c'était mieux que Daytona, entièrement produit par Kanye West? D'ailleurs, c'est assez marrant, finalement... Ouais, c'est vrai. Daytona, c'était vraiment une folie, tu vois. C'est vrai que c'est quand même drôle de voir comment Pusha T était partagé entre les deux, tu vois ce que je veux dire. Entre Pharrell Williams d'un côté et Kanye West de l'autre, tu vois. Finalement, ces deux personnes, comme on dit, qui représentent vraiment, en termes de production de cette époque-là, les deux personnes qui ont mieux tenu la route, tu vois. C'est toujours des personnes, vas-y, je vais faire un album avec Pharrell Williams et Kanye West. C'est toujours un truc qui va t'exciter, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être pas le son qui va être le plus vendu aujourd'hui, mais c'est toujours un truc qui va t'exciter en réalité, parce que dans ton inconscient, tu repenseras toujours à ce qui s'est fait avant et à ce qu'ils sont capables de donner. Et en réalité, par exemple, quand tu vas faire ce qu'il a fait sur All Right, c'est une dinguerie, tu vois. Vraiment,
oui, complètement.
La production, genre, t'es sur de la trap, mais de la trap orchestrale, gros. C'était oufissime à imaginer, la manière dont ça s'est monté et tout, avec le Pharrell Williams qui chante dessus, enfin rappe dessus, tu vois, au refrain. C'est n'importe quoi. Même Mr. Morale, ce qu'il a fait dans le dernier projet,
Mr. Morale.
En termes de prod et tout. Non, c'est ça qui est cool, c'est que le Boog, il en a toujours sous la semelle, il impressionne toujours. J'avais interviewé Maeta, et Maeta, du
chanceux.
Coup, elle parlait... Ouais. C'est quelque chose de l'avoir en face, je vais pas te mentir. Elle était même pas à 10% ce jour-là, gros. Elle était là juste avec son bun sur la tête. Elle avait des chaussons. Elle était là, venait sortir sa chambre d'hôtel. Vas-y, je fais une interview. Vas-y, déjà fait où? C'est bon, là. Vas-y, let's go. Et gros, violence. Mais bon, tout ça pour dire que Maeta, elle a fait, du coup, elle partait de son studio avec Pharrell Williams. Et tu vois, elle avait toujours cette image. En plus, Maeta, elle a quoi, 22, 23, tu vois. Et elle a 23 ans. Et elle avait des étoiles dans les yeux, genre, en voyant Pharrell Williams, parce que, au vu de ce qu'elle représente, alors qu'elle est en vrai, elle est jeune, tu vois. Mais toujours cette aura-là, présence musicale, où, en réalité, quand tu écoutes du rap ou du R&B, tu sais déjà ce qu'ils ont fait. Et c'est tellement des intemporels que jusqu'à aujourd'hui, en fait, ces personnes restent là. Et s'il y a des choses qui reviennent, par exemple, bah, tu parlais de... Déjà, The Internet, ils ont travaillé avec, avec
Chad Hugo. Doncha.
Voilà. Ouais, en plus, ils sont trop, trop fous, tu vois. Et du coup, ils ont travaillé dessus. Et d'un côté, tu as aussi Tyler, The Creator, qui travaille beaucoup sur les bridges. Et il y a un bridge, moi, de Tyler, The Creator, que je kiffe de fou. Et vraiment, je trouve ça fait Nerds. Parce que Nerds, ils avaient une manière, quelquefois, de faire des bridges où la prod, elle est... Genre, le son, il est fort. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le son, il t'envoie dans ta tête. Genre, je pense à un son de Kelly qui fait...
Ouais, exactement.
Et t'as le
ouais.
bridge derrière,
Young,
tu
Fresh
vois.
And New.
Oui, exactement, tu vois. Et je trouvais que dans New Magic Wand, c'était un peu cette énergie-là où t'envoies quelque chose de fort, de bruyant dans les oreilles. Et après, t'as le bridge au milieu qui, où tout baisse et revient vers quelque chose de plus R&B, tu vois. Tu vois là, le bridge de New Magic Wand, comment il est. Où t'as vraiment cet esprit-là, en fait. Tu dis, c'est les Nerds, c'est les Neptunes qui auraient pu faire un truc comme ça. Ça sonne tellement Neptunes, tu vois. Et tellement ouais. assumé. De toute façon, Cherry Bombs aussi, c'est super Neptunes en termes de production et tout.
Ouais, carrément.
Mais voilà, tout ça pour dire que tous ces codes-là qu'ils ont apportés réellement, musicalement, les changements d'ambiance, les bridges, c'est des choses qui sont toujours adulées aujourd'hui, qui représentent toujours quelque chose aujourd'hui. Et ouais, de toute façon, aujourd'hui, Tyler, The Creator, c'est le meilleur porte-étendard qu'ils aient par rapport à ça. Et ouais. c'est des choses qui continuent à exister, tu vois. Franchement, bah, je pense à Tyler, je pense à Varnish La Piscine, et je pense à toi aussi. Et je pense à toi aussi.
Oui.
Où vraiment, vous avez ce truc-là, tu vois, où... il y a une influence en fait qui se ressent totalement de lui, tu vois. Et en réalité, voilà, tu vois, maintenant d'avoir dit sa piscine qui est totalement matrixée par Tyler, The Creator aussi, c'est trop drôle quand tu le vends en live, il fait les mêmes blocages que Tyler, The Creator, qui sont les mêmes blocages que Pharrell Williams. Donc c'est vraiment des barres. Donc imagine toi comment il est heureux de voir qu'il est validé par Pharrell Williams et Tyler, The Creator. Et puis bah, comme j'ai dit, il y a toi aussi, tu vois, où on ressent vraiment l'influence, elle est là, tu vois, c'est quelque chose.
Totalement.
Donc voilà.
Totalement. Et ouais, pour en revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est tout simplement le fait, pour faire court et conclure le podcast, parce qu'on a été très bavard, mais vous connaissez, c'est la passion qui parle. Ouais, moi, c'est vraiment, effectivement, pour parler de moi un peu, les Neptunes qui m'ont amené vers cette recherche de la progression, tu sais, de l'accord, du truc qui tabasse, le truc qui t'attrape. C'est vraiment les accords. C'est Pharrell lui-même le disait dans son entretien avec avec Rick Rubin. Lui, c'est pas en fait les structures rythmiques, etc., qui l'attrapent. Faut l'attraper avec des accords, tu vois. Et moi, je suis de cette école-là aussi, tu vois, de la recherche d'accords. À partir de ce que j'ai écouté des Neptunes, c'est vraiment les Neptunes qui ont formé mon oreille. Et c'est en quelque sorte une espèce de prémisse à l'étude de mon musicien préféré. Bon, c'est mystère pour personne. Je suis un giga fan de Stevie Wonder. Et comme il y a cette influence de Stevie Wonder chez les Neptunes, ben forcément, tu vois, il y a cette volonté, cette recherche des accords, cette recherche de la finesse, tu vois, harmonique, qu'on retrouve notamment dans les bridges et qui fait tout leur génie, quoi, tu vois. Et ouais, c'est pour dire qu'en fait, ils ont vraiment inspiré toute une génération de compositeurs, toute une génération d'artistes qui recherchent ce son-là et qui se reconnaissent en fait à travers cette esthétique-là, cette manière d'envisager la musique et qui forme plus ou moins une communauté. C'est pour ça qu'en fait, Varnish et Tyler, ils sont rapidement reconnus, tu vois. Ah, tu viens de là ? Ok, vas-y, c'est la même mythe, c'est bon, on est ensemble, tu vois. c'est ce que truie là. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en ce qui concerne ce charmant podcast sur les Neptunes ?
Non, je pense qu'en réalité, on a vrai le tour. En fait, le problème, c'est que si j'ajoute quelque chose, on va continuer encore longtemps, tu vois. En réalité. Donc, je pense que c'est bien de bloquer là. Je pense qu'on a dit réellement ce qu'on avait à dire, tu vois, ce que je veux dire musicalement, en termes de culture, ce qu'ils nous ont apporté. Genre, tout simplement le fait d'être soi-même. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut retenir au final de The Neptunes. C'est
totalement.
Ça qu'on a apporté, tu vois. Et justement, des esprits, et que des esprits comme Tyler, The Creator ont pu exister, tu vois. Tu as ta créativité, mais tu ne représentes pas forcément les codes de ce que tu aimes, tu vois. Tu as cette créativité-là, tu as envie de faire ça, mais tu n'es pas dedans, en fait. Tu es peut-être un mec qui a grandi dans la street, mais qui n'a jamais été un street guy, ou bien même pas, tu vois. Tu es un mec qui vient d'ailleurs et tout. Et comment tu fais pour apporter cette personnalité à toi dedans ? Est-ce que tu te sens légitime ou pas, tu vois ? Et je pense que lui et Kanye West, c'est deux personnes qui ont pu légitimiser cette chose-là, en fait. Être soi-même dans la musique et montrer, en fait, que tu pouvais réussir là-dedans, tu vois. Et en fin de compte, quand tu vois le parcours de Pharrell Williams. Et c'est pour ça que ça fait aussi plaisir en réalité de le voir réussir autant aujourd'hui. Tu le vois, le frérot, il est là, il est directeur artistique de Louis Vuitton, tu vois. Et tu repenses à tout ce parcours-là. Je me rappelle, je voyais des vidéos de lui, en concert et tout. Tu sais, dans une salle, on dirait c'est genre la boule noire, tu sais. Petite salle avec Kélis, ses beules, ils sont 10 sur la scène, ils sont une centaine là et tout, tu vois. Et tu vois là où ils en sont aujourd'hui, tu vois, en termes de présence, en termes d'influence et tout. Et tu dis non, c'est inspirant, tu vois. On commence tous quelque part et parfois on a l'impression de pas forcément sondre dans la masse, mais en réalité, ça montre que bah, si tu as vraiment envie de. Si tu as quelque chose à proposer, n'hésite pas à le proposer, tu vois, parce qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter. Et possiblement quelqu'un à qui tu vas changer d'avis comme ça, et qui sait où ça va te mener, tu vois. Donc voilà, c'est ça que j'aurais à dire pour boucler.
Ok. Et je vais t'essayer citer deux sons.
Oui.
Trois sons. Bon, allez.
C'est impossible. Trois sons. Ouais. C'est impossible. Je vais essayer d'en citer ceux qu'on n'a pas cités parce qu'on s'est vraiment ambiancé sur certains. Il y a un son de Sade que je kiffe de
mon
ouf.
Gars, my man.
Ah, mais tu sais déjà.
Bien sûr, le remix.
Tu sais déjà le remix. Le remix, ils ont fait le son de Sade. Mon Dieu, putain. By Your Side. By Your Side, remix. Ah, non, ce son, gros. Putain. Quelle dinguerie. Ce son, c'est une folie sans nom. J'adore cette chanson. J'ai tapé des repeats de fou. Tout est parfait dedans. La voix de Sade, la production, le bridge. Et c'est l'une des rares fois où je trouve que la production de base est meilleure que le bridge. Sachant que le bridge est incroyable. Mais vraiment, By Your Side de Sade, crazy as shit. Mm-hmm. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce qu'il y en a tellement. On avait mentionné les Change Clothes qui étaient fous. On a mentionné Grinding qui était fou. Putain, Freak Dough, je sais que c'est Pharrell qui l'a produit aussi. J'adore cette production.
Ah, t'es vraiment mon ref.
Mais gros, tu sais déjà, voilà, quand on parle de ce book, c'est fou. J'ai envie de mentionner un son quand même de l'album In My Mind. Franchement, j'ai tellement kiffé de son. Celui que je vais mentionner vraiment particulièrement, c'est le son avec Pusha T. Ah putain, attends, faut absolument que... C'est Stay With Me. La production Stay With Me, je la trouve vraiment stellar. C'est trop fou, parce que sinon, il y aura évidemment That Girl, il y a Angel que j'ai pas arrêté de repeat, évidemment, tu vois, c'était vraiment trop une folie. Mais ouais, Stay With Me, j'ai tapé des repeats dessus dernièrement, là, c'était trop. Number One... le son de Snoop Dogg.
Ah oui, Vato.
Hey, mais you won't believe what I saw.
Incroyable, Vato.
Mais de ouf. Et c'est un son de RNG parce que pour moi, Snoop Dogg, entre Doggy Style et RNG, moi je prends RNG. Voilà, moi je l'ai dit, c'est bon. J'élève les bras. J'ai levé les bras. Voilà, je vous laisse juger. Mais moi je prends RNG fort. Et putain, son Fresh Pair of Panties on. Je vais choisir celui-là. Est-ce que tu vois c'est lequel? Parce que celui-là, je suis pas sûr qu'il... Je crois pas qu'il soit dans la version digitale. Il était que sur le CD. Parce qu'on avait le CD chez moi de cet album. Et ça fait... Tu vois pas?
Non, ça vous dira.
Un vrai son pervers. I got to know if you could show me... Hey! Sounds like crazy. Ah, il y en a trop. I'm gonna stop there, nigga. Je te laisse dire les trucs. Ça va être plus dur.
Ouais, moi je vais en citer 4. Du coup, je vais me permettre pour conclure ça rapidement. Je vais essayer de citer quand même des deep cuts. Midnight Hour avec Natasha Ramos. C'est incroyable. Mm-hmm. C'est vraiment la moellosité, même le R&B moelleux. Tu vois, c'est qui te met des papillons dans le ventre. C'est ce R&B là, vraiment. Midnight Hour. Je sais pas si le morceau est sorti, c'est peut-être un unreleased, mais il est juste incroyable, ça, à écouter. Mm-hmm. Un autre deep cut, un morceau qu'ils ont fait avec Ray G qui s'appelle Out the Ghetto. Et ça, c'est vraiment Neptunes 2001-2000 avec leur esthétique de l'époque. Donc j'aime bien celui-là. J'aime bien le mentionner quand je veux vraiment aller chercher des deep cuts des Neptunes. Mm-hmm. Évidemment, je suis obligé de mentionner celui-là parce que c'est un de mes rappeurs préférés, un des rappeurs qui a contribué à ma formation en tant qu'adolescent. Je parle bien entendu de Lupe Fiasco avec I Gotcha.
Mmh, ah là, ouais.
I Gotcha, C'est.
En vrai, putain, en plus, il y a un son que j'ai oublié de mentionner, moi, de mon côté, mais continue, s'il te plaît. Il faudra que je mentionne après parce qu'il faut que je mette du respect dessus.
Ouais. Et j'ai envie de mentionner un morceau du Zbeul pour mentionner encore une deep cut. C'est dans Neptune's Present the Clowns avec ODB. C'est Pop Shit. Parce que l'intro d'ODB est juste mythique. Et t'as une vidéo de Pharrell qui indique du coup à ODB comment placer sa voix et tout, faire l'intro. Guess who's home? Guess who's home?
Oui, vidéo
Ouais.
incroyable.
Et du coup, t'as Pharrell qui lui indique, qui lui dit, vas-y, fais ça parce que ça, c'est chaud de ouf. Et ça montre aussi une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est la capacité des Neptunes à orienter la manière dont ils posent sur les prods. Écoutez les producteurs, les rappeurs, les interprètes, tout ça. Écoutez les producteurs, s'il vous plaît. C'est pour vous que je dis ça.
Très
Et
très bien
donc,
vu. Surtout que eux, ils écrivent aussi en plus.
oui, ils écrivent aussi. Donc voilà, après, on n'a pas beaucoup parlé de Justified, mais le cœur y est. Hein,
Ouais, bien sûr, c'est
bien
fou parce
sûr.
que moi je me rappelle, gros, j'avais fait une après-midi chez WAM, quand mes darons ils étaient pas là, bien sûr, évidemment, ni ma tante, et j'avais fait une mixtape, et dedans, mais c'était même pas, pour le coup, c'était Oh No, c'était le son de Timbaland, et je m'étais fait voler ma mixtape, tellement les sons dedans ils étaient lourds, gros. Donc, shout out à cet album, shout out à Justified, gros. Never forget. Et je veux juste, moi, mentionner deux autres morceaux parce qu'il faut que je fasse Babyface, There She Goes. Tu vois, c'est laquelle?
Bien sûr!
Ah! Non, tout son quand il passe. Et ça aussi
Incroyable.
le bridge, ça aussi le bridge, c'est fou. I just wanna love a girl, baby. Ça aussi
Oui.
le bridge, c'était fou. Et damn, 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 damn. Un dernier. J'ai envie quand même de mentionner Punchdrunk of Love de Common. Il y a Inhale de Common dans le même album qui était fou.
OK.
L'album électronique qu'ils ont fait ensemble parce qu'ils ont fait un album commun ensemble. Et il y a
Ok,
Punchdrunk of Love.
j'ai pas voulu me mentionner Universal Mind Control parce que ça allait nous mener dans un long débat, mais soit, tu fais
Oui,
bien de
de
le
ouf.
mentionner quand même.
Oui, parce que quand même, c'est vrai que du coup, cet album-là a été beaucoup critiqué. Mais il y a des sons que j'ai pas trop kiffé dedans. Mais je tiens à dire quand même qu'il y a deux sons en particulier vraiment que j'ai kiffé dedans. Inhale, qui est vraiment bien, vraiment lourd. Et ça fait le plus common de tous. Il y a Punch Drunk of Love avec le refrain de Kanye West qui est incroyable sur le son. La prod est folle. Pour moi, j'adore, tu vois. Enfin bref, sinon, on va continuer encore pendant 24 milliards d'années. Mais c'est ces deux-là que je mentionnerai si je dois en mentionner d'autres.
Aïe.
Donc voilà.
Bon. On dirait bien qu'on a conclu notre podcast là avec ces derniers mots. Hein. Donc voilà, shout out à tous les auditeurs, shout out à
Shout
tout le monde. Merci de nous
Merci, gros.
suivre sur cette session, sur cette saison toute particulière qui nous tient à cœur parce qu'on parle beaucoup de beatmakers quand même hyper connus. On essaie quand même de vous apporter des informations un peu pointues, de vous les faire découvrir un peu différemment. Et voilà, si vous suivez, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, à participer,
On
à
n'a rien mentionné de
aimer.
truc avec Beyoncé d'ailleurs, c'est incroyable, mais bon,
Ouais,
shout
Kitty Cat et tout, mais bon, allez, shout out.
out. Ouais, shout out,
Walk
quoi.
it out. Voilà.
Oui,
Allez, c'est fait.
voilà.
Work it out, Kitty Cat, Green Light, ok, c'est fait. Voilà, pour toutes les fans de Bill,
Nice, putain,
personne
de
n'est
The Carters,
paumé.
vas-y, putain, ça va quand
Donc voilà, il n'y a
même.
plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Hein, Marc, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs?
Bah, rien que, sauf que, comme d'hab, la playlist accompagnant le
Yes.
podcast sera balancée juste après, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, parce que ça va être lourd, comme vous avez pu le voir, il y a des tas de sons qu'on n'a pas mentionnés, du coup, on les mentionnera certainement. Enfin, on les mettra dans la playlist, quoi. Et voilà, non, sinon, shout out à vous, Star Trek for Life. Et merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous écouter et tout. C'était nice.
Ouais, c'est que de l'amour. Ciao la famille!
Ciao, ciao.